Allô les amis, on a frôlé la catastrophe, on a frôlé le verre renversé sur la table de mixage, on a frôlé l'absence de stream ce matin. À 2 cm, j'ai l'impression que l'eau n'est pas allée jusqu'à l'alimentation. C'est pas loin quand même, hein. Vous me permettez d'essuyer un truc? Bougez pas. Pas très loin. C'est fou, hein? Ça se joue parfois à un millimètre, hein? Incroyable. Évidemment, travailler avec du liquide sur le bureau, au-dessus d'un PC, d'une table de mixage, d'un clavier, tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait, ça ne se fait pas. Et c'est mon quotidien. Et je suis sûr que c'est votre quotidien. Levez la main ceux qui travaillent avec des liquides sur le bureau, non loin d'unité centrale, de PC portable, de que sais-je. Je suis sûr que vous en êtes. Qui n'en est pas? Comment ça, pas moi? Mon café sur mon bureau actuellement, bien sûr. On lève la main. Mais bien sûr. On sait qu'il faut pas le faire. On n'apprend jamais, mais oui, bah oui, bah oui. Présent, j'aime le risque, la base, bah évidemment, évidemment. J'espère que vous allez bien. Je vais aller très vite ce matin sur le bonjour parce qu'on a 1 milliard d'actualités. On va lancer le live également sur TikTok. Est-ce que j'ai le bon titre sur TikTok? Déjà, on va enlever le sommaire parce que je vous l'ai pas encore mis, mais le sommaire, il est prêt. On est plutôt pas mal. Ok. La matinée tienne, ok. Café sur le bureau, mais sur un support spécifique pour éviter les problèmes. Ça, c'est beau, ça. Attends, on va mettre le chat. TikTok. Amis TikTok, on vient de lancer le live sur Twitch également. La matinée Étienne, on va lire les journaux, on va parler d'actualité. Et on parlait de ceux qui aiment vivre dans le danger. On parlait de ceux qui aiment travailler avec du liquide, de l'eau, un café, sur un thé, sur leur bureau, alors qu'il y a le PC qui est littéralement à quelques centimètres. Et on se rend compte qu'on fait tous la bêtise. On a toujours un café ou un thé à portée de main. Bubo Scandanus. Les bières. Comment ça, les bières à côté des platines DJ? Hein? Aurélien, tu mixes ce matin et tu. Café sur le. Alors, il y a Rems qui me dit café sur le bureau, mais sur un support spécifique pour éviter les problèmes. Incapable de travailler dans le café, me dit. Comment je dis Gwend? Je prononce comme ça? Incroyable. C'est pour ça que je prends une gourde. Ah, la gourde, ouais. La gourde, ouais, j'avoue, j'avoue. Après, c'est beau une tasse, c'est pas. Enfin, là, c'est un verre, mais peu importe. Je sais pas. J'ai toujours ma tasse sur mon bureau et une gourde d'eau, me dit Old Linux. Tasse de café juste devant moi, mais le PC est sur le bureau, donc moins de risques. Ouais, j'entends, j'entends. Moi, c'est ma table de mixage qui craint. Elle est vraiment à gauche, là. Est-ce que ça marche bien le live sur TikTok en termes de vue genre? Dit Elok l'Empereur. Il y a un monde où ils vont vous dépasser bientôt. Donc, ami de Twitch, il va falloir vous mobiliser un petit peu. tu avais le thermos à l'époque. Il y a une époque, ouais. Je me rappelle d'un accident de moto quand j'étais jeune, quand j'étais jeune journaliste à Radio France Internationale et j'ai eu un petit accident de moto. La moto était un mode de déplacement instable. Hein. Et j'avais un thermos de café dans le dos qui s'est cassé pendant l'accident. Quand les pompiers sont arrivés, il y avait une odeur très forte de café sur la scène de l'accident. Voilà. Et je sentais très très fort le café. Et je me demande si vraiment ils ne sont pas demandés si c'était pas du sang, d'ailleurs, de liquide noirâtre partout. Et non, c'était, j'avais pris une douche au café. Ouais. Ouais, au Linux, on est monté presque à 1000 vendredi pour être tout à fait précis. Ouais. Ou de la diarrhée liquide noirâtre. Non, non, c'était vraiment du café. Ça expliquerait bien des choses si ton sang était du café. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais j'étais jeune, c'est très longtemps. Je ne fais plus de moto. Première fois l'année que j'arrive à l'heure, merci Cador, ce n'est pas mon cas. Hein. Je voulais lancer à 9h30, il est 10h18, tout va bien. J'ai réussi à renverser ma tisane sur mon ordi portable la semaine dernière. Heureusement, ma gale de Valorant n'en a pas parti. Ma game alors. Ok. Attends, mais tisane sur ordi portable, Roxy, non, mais ça a continué à rouler? Ok. Salut Hugo. Chaud en vrai. T'as eu de la chance que le thermos n'ait pas empiré l'accident. Oui. Les motards savent que tu ne portes pas de choses dans un sac à dos quand tu roules, hein. En tout cas, pas de choses lourdes qui peuvent appuyer notamment sur ta colonne en cas d'accident. Pour ceux qui font un peu de deux roues, j'espère que vous le savez, on ne porte pas un truc lourd et dur dans un sac à dos quand on fait de la moto. En cas d'accident, ça peut être très dangereux, effectivement. Les dernières années, je roulais avec un airbag. Je crois qu'il n'y avait pas de live ce matin, j'ai fait mon café avant la première gorgée, j'ai eu la notif, timing parfait. Ouais, désolé, je voulais lancer plus tôt, mais je répondais à des mails. Bravo pour ton passage au grand concours, Samuel. Merci, Nubaiwan. Oui, grand concours des animateurs, TF1, on profite des Restos du Cœur. Ma prestation était moyenne, ni exceptionnelle, ni catastrophique. Moyenne. Oui. Voilà, mi figue, mi raisin. Bien, ça allait en vrai. Le jour de l'émission, la catastrophe, c'est vraiment tu t'écroules en première manche et que vraiment t'es le cancre, quoi. Ça allait, ça allait. Merci Barney de How I Met Your Mother. Merci beaucoup pour le soutien. Merci Pompidou, que je n'avais pas vu. Ça arrive de perdre en première manche, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, Emma, ça arrive au meilleur. Nous avons la rêve de cette blague, je pense que je pense de voir de quoi tu parles. Bon, les amis, alors, on va aller vite ce matin parce que j'ai littéralement. Salut, Pantoufle. J'ai littéralement 5-6 heures d'actu pour vous. Voilà. Donc là, on a un problème puisqu'on est ensemble pour 2h30 max, puisque j'ai un rendez-vous, enfin une réunion de boulot à 13h. C'est pour ça que je voulais lancer plus tôt. On a un problème. On a beaucoup d'actu. Donc, on va aller vite. OK? On va aller, et je vous propose, donc il est quelle heure? Après 10 minutes seulement de bonjour, de partir sur le sommaire si ça vous va. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça vous va? Ouais? Il suffit de tout lire en x2. C'est pas faux, Nix. C'est pas faux. Nix. Merci, Timothée. On fait ça? OK? Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, la matinée Étienne, ça fait 5 ans que c'est sur Twitch. On est là tous les matins du lundi au vendredi. On lit les journaux, la presse quotidienne nationale. Et puis, je vous sélectionne toute une série d'articles d'actualité, les actus qui me semblent intéressantes, les articles qui me sont intéressants. C'est très subjectif, hein, c'est mon choix à moi, c'est très évidemment. Je vous en parle régulièrement de cette subjectivité. Et puis, c'est arrivé récemment sur TikTok. Et désormais, c'est même en podcast. Point d'exclamation podcast dans le chat de Twitch. Vous avez tous les liens pour toutes les plateformes de podcast audio, les Deezer, les Spotify. C'est mis en ligne en général vers 16h tous les jours, voilà, pour ceux qui veulent écouter cette revue de presse en podcast. On va speedrunner l'actualité, Alex, exactement. OK. Prêt? Allez, c'est parti. Je vous ai même préparé le sommaire. Le voici, ami de Twitch. Le voici, ami de TikTok. Voilà, vous avez tous les sujets qu'on va aborder. Dans le sommaire, c'est parfois un petit peu laconique, hein. Alors, de quoi je vous parle ce matin? Je vous parle. Hop. Pas de Trump pour commencer, de Le Cornu. Voilà, c'est là. On va commencer par ça. C'est parti. Régulièrement, on prend des nouvelles de Le Cornu, Sébastien Le Cornu, nouveau Premier ministre. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Pourquoi vous n'avez pas le. Ah, voilà. Voilà. Nouveau Premier ministre, mais toujours sans gouvernement, sans ministre, sans programme de gouvernement annoncé, sans projet de budget précisé. Donc on prend des nouvelles de temps en temps. Où on en est, c'est selon Le Parisien, la semaine où tout peut basculer pour Le Cornu. Comprenez, où littéralement, il peut devenir peut-être le Premier ministre à être resté le moins longtemps dans l'histoire de la cinquième, battre un nouveau record de rapidité. Voilà. Il prend son temps, nous dit Milan 76, mais. Il y a un monde où il aura beau avoir pris son temps et il va peut-être partir très très vite. C'est ce que nous explique Le Parisien, parce que du côté du PS, on se demande si on ne va pas lancer une motion de censure contre le monsieur qui n'a pas été très à l'écoute des desiderata de la gauche, notamment sur le plan fiscal. Donc Le Parisien nous explique ça. Ouais, lui aussi, il speedrun. Le Figaro nous le confirme, Le Cornu déjà sous la menace d'une censure des socialistes. Je n'en parle pas tous les jours, mais c'est intéressant de prendre des nouvelles un petit peu du gouvernement. Avec Le Figaro, nous le dit ce matin, une gauche qui fait de moins en moins mystère sur ses intentions de censure. Qui résiste encore à Trump ? Article passionnant dans Le Parisien, sur un sujet, je vais vite, hein, c'est le sommaire, ô combien complexe, qu'on peut résumer en cette question. Quelle est la manière dont le président américain gouverne pour son deuxième mandat ? Est-ce que Trump, dans sa manière de gouverner, est d'une manière ou d'une autre une menace pour la démocratie, notamment pour l'équilibre des pouvoirs, qui est au cœur de la démocratie américaine ? L'article du Parisien sur un sujet aussi complexe que celui-ci, je trouve, nous résume plutôt bien le truc. Je dis, j'ai cet article, on le lira ensemble. Trump également, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça fait des semaines que je vous dis que l'une des clés de la fin de l'offensive de l'armée israélienne sur Gaza, elle est dans les mains de Trump. Quand on connaît un peu le sujet, c'est une évidence. Et là, j'apprends dans Le Figaro que Trump a un plan pour Gaza. Voilà. Ah, il faut que je mette le TC, ouais, t'as raison. 11 minutes, merci. Tu régales. Merci. Bon. Pour Gaza et pour l'État palestinien, et alors qu'il est très 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 éloigné de cette Riviera, le plan surréaliste qu'il avait énoncé à un moment pour Gaza. Et alors, quel est le contenu de ce plan ? Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ? Parce que vous allez voir que ce plan pour Gaza est très très loin de ce qu'on avait entendu dans la bouche de Trump il y a quelques semaines. Et puis, dans quel monde Netanyahou, le Premier ministre israélien, peut dire oui à ce plan ? Beaucoup de questions résumées dans cet article du Figaro. Beaucoup d'interrogations, mais on prend date pour les prochains jours quand on verra des infos tomber là-dessus. Ce que j'aime, moi, dans la presse écrite, c'est que c'est un média qui prend le temps, parfois. Nous, on speedrun ce matin, mais ce que j'aime, moi, dans la presse écrite, c'est que c'est un média qui prend le temps et qui ne lâche pas une actualité parce qu'elle a fait les titres pendant 2 jours et après, on passe à autre chose, let's go. Hein, il faut maintenir l'audience sur les chaînes d'infos en contenu ou que sais-je. Il faut du clic, de la nouveauté, en veux-tu, en voilà. Non, là, on a un avocat et essayiste dans la Croix qui revient sur la reconnaissance de l'État palestinien il y a quelques jours par la France et par d'autres pays. Alors, les plus accros à l'actu, ceux qui passent leur vie sur les chaînes d'infos vont dire « Ah, c'est bon, on en a parlé. » Ouais, mais c'est intéressant de voir quelqu'un qui revient sur le sujet parce qu'il a eu le temps de réfléchir un petit peu et nous expose sa pensée assez construite sur le sujet. Donc là, moi, je reviendrai là-dessus. De la même manière, on a beaucoup parlé la semaine dernière ensemble de la condamnation, la nouvelle condamnation, c'est une petite collection, de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement de sa campagne électorale de 2007, si je ne dis pas de bêtises. On en a beaucoup parlé. Et puis, c'est la suite de cette affaire. On a un avocat au barreau de Paris, Martin Vette, qui donne là aussi son avis là-dessus dans Libération, avec, vous savez, cet argument qu'on entend, notamment à droite, depuis quelques jours, la justice serait laxiste avec les délinquants, hein, et sévère contre les puissants. Que faut-il penser de cette idée ? On a un avocat qui nous donne son avis. Je spoil, il n'est pas du tout d'accord. Merci Renifleur de Paix, merci Maximo de la Vega, merci Lazarus. Non, Maximo de la Vego, pardon. Merci Lazarus, merci Timothée, merci Anis, merci Grande Madame. Je n'ai pas eu vos subs, merci beaucoup. Voilà. Donc on lira ça. Et l'Humanité nous propose également un article là-dessus après le jugement Sarkozy, la droite qui fait le procès de la justice. Donc on lira ces deux papiers, on revient sur l'affaire Sarkozy. Ça c'est nouveau. Amis TikTok, ça parle de vous. Vous savez que les États-Unis menacent de fermer TikTok depuis un moment. Voilà. En disant c'est un truc chinois avec la collecte d'informations sur les citoyens américains par une entreprise qui est une entreprise chinoise, ça ne va pas du tout. Et voici un deal, le grand méchant deal. Trump a annoncé la cession des activités américaines de TikTok à un consortium d'hommes d'affaires. Alors, il se trouve que ce sont des proches de Trump. Pratique. Des fidèles. Mais le président chinois nous dit Libé pourrait, donc Xi Jinping pourrait faire monter les enchères. L'Europe, dans tout ça, un peu impuissante, nous explique Libération. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Engagé depuis janvier dans des négociations tendues avec Pékin pour racheter les activités américaines du réseau social de TikTok. Soupçonné de siphonner les données des utilisateurs, le président américain clame avoir réussi son coup mais la partie n'est peut-être pas totalement gagnée. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien faire le point avec vous. C'est un gros article, on ne lira peut-être pas tout, mais au moins on sera info au courant des dernières infos. Alors ça, c'est un truc dont, sur lequel il y a plusieurs articles ce matin. Et je sais que, public informé que vous êtes, vous en avez sûrement entendu parler. C'est l'obsolescence programmée, annoncée pour des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde, hein, avec Microsoft, qui s'apprête à rendre obsolète, nous dit Luma, près d'un quart des équipements informatiques de la planète. Hein, de quoi s'agit-il ? De la fin de Windows 10. Voilà. Mon père se plaint tout le temps de son PC qui ne peut pas passer sur Windows 11 au Linux. Ben j'ai une mauvaise nouvelle. Voilà. On a un sorcier. Oui, alors MMG dit on a un sursis en Union Européenne, mais un sursis tellement compliqué. Bon, vous verrez ça. Voilà. Je vous résume l'actu pour ceux qui pourront battre avec nous tout à l'heure. Près d'un quart des ordinateurs de la planète vont devenir progressivement obsolètes, puisqu'à compter du 15 octobre, hein, c'est dans 15 jours, Microsoft ne veut plus mettre à jour son précédent système d'exploitation, même si la multinationale vient d'accorder un sursis pour les seuls particuliers européens. Quelqu'un me dit, comme à chaque fin de génération en fait, ouais, sauf que la nouveauté Ricoala, c'est que le nombre d'ordinateurs concernés est gigantesque par rapport au précédent que tu es en train de citer, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. On parle régulièrement de la guerre en Ukraine ici, puisque de la même manière, on essaie de ne pas oublier des informations hein, qui certes sont répétées quotidiennement par les médias. On se dit c'est bon, on a compris qu'il y avait une guerre en Ukraine. Moi, je ne veux pas oublier qu'il y a un conflit en Ukraine. Et on a un dossier de la Croix sur la guerre des robots avec ces drones aériens et terrestres de plus en plus présents dans ce conflit et une armée de terre française notamment qui observe de près ces changements. Voilà, il y a un côté, moi j'ai lu l'article là de la Croix qui est extrêmement bien fait sur l'utilisation massive désormais de drones aériens mais aussi terrestres, voilà, qui donne à ce conflit de plus en plus des allures de, vous vous rappelez de cette scène, la scène du début de Terminator pour les plus anciens, hein, le premier Terminator, vous vous rappelez la scène du, je crois que c'est une des scènes du début où on voit ce spectacle de désolation avec les robots là. Voilà. En fait, en lisant cet article, moi j'ai pensé notamment à ça. Quoi. Donc on lira ça. Et puis c'est drôle, il y a une série qui sort sur Canal+. J'espère que vous aurez le temps de vous en parler. Dont le scénario est un petit peu fou. J'ai l'impression que c'est une série française qui s'appelle Les Sentinelles, adaptée d'une BD que vous connaissez peut-être, une série rétro-futuriste sur des soldats au pouvoir augmenté pendant la Première Guerre mondiale, qui propose un univers singulier, première saison prometteuse. Je suis allé voir la bande-annonce. En vrai, c'est assez étonnant. Alex me dit, mon mari attend les Sentinelles avec impatience. J'avoue que ça a l'air pas mal, et en plus, c'est français. Moi, je suis allé voir le trailer, c'était plutôt pas mal. Et puis, si on a le temps, bon, je vais vraiment speedrunner l'actualité ce matin, je m'en veux, mais j'ai vraiment beaucoup de choses intéressantes. Il y a du mouvement, alors Les Échos, c'est un journal qui suit beaucoup l'actualité des jeux vidéo, mais par le prisme économique, normal pour un journal économique, et qui se penche sur un prochain rachat de Electronic Arts, EA, hein, qui est l'éditeur notamment de Football FC, l'ancien FIFA, des Sims également. Battlefield 6, c'est EA aussi ? Ouais, je crois aussi, Battlefield 6 qui s'apprête à sortir auprès du grand public. Voilà. Et donc là, il y a un chèque qui pourrait être fait. On verra qui veut racheter déjà EA pour 50 milliards de dollars. Si vous avez 50 milliards de dollars, littéralement, vous pouvez racheter EA. 50 milliards. Rachat par le PIF, c'est quoi le PIF ? Non, mais je pense pas qu'Ubisoft rachète, non. Je pense que c'est compliqué. Voilà. Bon, vous avez vu le... Ils prennent l'ACB ? C'est le fonds d'investissement saoudien ? Il n'est pas tout seul, MMG. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul. Ouais, ouais, il y a des... Oh, ça, c'est marrant, il y a des financiers proches de Trump. Il est vraiment partout, lui. Ouais. Donc, il y a du saoudien, mais pas seulement, ouais. C'est bizarre, c'est marrant. Trump, il est dans tous les articles. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il est partout. Il est sur tous les sujets. Il y a une explication sur la raison de la vente, e-sport image. Je sais pas du tout. Je suis pas sûr, en fait. Business. Peut-être qu'à un moment, les propriétaires ont dit il y a un chèque à prendre, je sais pas. Bon, allez, speedrun. Ouais, c'est incroyable. Bon, les amis, pardon, hein, vraiment, c'est ce matin, j'aurais dû lancer plus tôt, mais j'avais plein de trucs à faire ce matin. Mais vraiment, pour le coup, on a vraiment beaucoup d'actualités. Hop, c'est parti. Donc, on passe sur le corps nu pour commencer. Premier sujet, on va mettre un petit essai, ce qui permet, un petit time code, ce qui permet à ceux qui regarderont cette revue de presse en replay sur Twitch ou YouTube ou en podcast de retrouver facilement. On est à 23 minutes. Je ne sais pas si on a déjà commencé une revue de presse aussi vite. Normalement, 23 minutes, on est encore à se dire bonjour. Ok, amis de Twitch, amis de TikTok, amis qui nous écoutaient en podcast, c'est parti. On va commencer par prendre des nouvelles de monsieur Sébastien Lecornu. Comment ça va? Pour vraiment résumer, je dirais que ça va pas fort quand même, hein. Nouveau Premier ministre du président Macron, la question est de savoir s'il va devenir le Premier ministre qui sera resté le moins longtemps de l'histoire de la Ve République. Hein, c'est la question. La semaine où tout peut basculer, c'est le Parisien qui nous écrit cela ce matin. Nomination des ministres, nouvelle mobilisation syndicale, ultime négociation pour Lecornu. Les prochains jours s'annoncent périlleux et décisifs. Lisons. J'ai deux articles là-dessus. Tiens, regarde, il y a un cadre centriste qui disait ce week-end, à propos de cette semaine qui s'ouvre, ça va être un enfer. Si on survit à l'issue, ce sera miraculeux. Demandez le programme. Une réunion des patrons de l'alliance gouvernementale aux allures de thérapie de groupe lundi. Élection au poste clé de l'Assemblée mercredi et jeudi. Nouvelle mobilisation syndicale jeudi. Négociation politique vendredi. Nomination du gouvernement et conseil des ministres probablement ce week-end. Ah bon? Week-end prochain, nomination du gouvernement? Ok, d'accord. Ça va être du patinage artistique, glisse un conseiller ministériel. Tout l'enjeu de cette semaine reste, nous explique le Parisien, de repousser la menace de censure doublement brandie. D'où vient cette double menace de censure? Je vous rappelle, une censure, c'est quand des députés disent allez, stop, ce gouvernement, on le renverse. Avant tout par les socialistes, hein, qui n'ont pas digéré l'entretien exclusif de Sébastien Lecornu dans nos colonnes, hein, c'était ce week-end, où les principales revendications socialistes. Pour en échange, si vous voulez, du soutien de ce gouvernement, dont la taxe Zuckman, dont on a beaucoup parlé ici, hein, et la suspension de la réforme des retraites, ont été rejetées. Donc les socialistes sont très déçus. Sam, ministre de l'Information, vous n'êtes pas prêt, je vous le dis. Non, non, nous, on vise la présidentielle. Nous, on vise la présidentielle, ici 2027, je vous l'ai déjà expliqué. Le PS a donc posé un ultimatum au Premier ministre, soit la concession. Hein, sur la fiscalité, sur les retraites, soit la censure. Bim! Ça dégage. Les ténors du parti se rendront à Matignon vendredi pour une ultime discussion. Hein, c'est chaud. Pop, pop, pop. Et il n'est pas le seul. Donc, il y a une menace de censure par le PS. Dans le bloc central, beaucoup d'élus redoutent que Sébastien Lecornu ne regarde pas assez sur sa gauche. Pop, pop, pop. Le compromis doit se chercher avec le Parti socialiste. Bah, ok, d'accord. Ok, est-ce que la menace vient uniquement du PS? C'est la question que je me pose ce matin. Alors, du coup, en privé, certains redoutent ce scénario noir, que le futur gouvernement Lecornu soit censuré par le PS, ok, et sauvé, donc motion de censure déposée par les élus de gauche socialiste, hein, vous avez compris, et sauvé dans un premier temps par le parti de Marine Le Pen, par le RN, qui ne voterait pas la censure. Vous vous retrouviez avec un gouvernement. Un Premier ministre nommé par Macron, qui ne devrait son salut provisoire qu'aux voix de l'extrême droite. Afin d'éviter cela, le camp présidentiel pousse le locataire de Matignon à envoyer des signaux forts et clairs aux 66 députés PS, mais sans franchir les lignes rouges fixées par les Républicains, mais aussi par les centristes, qui, eux, ne veulent pas entendre, notamment, d'une fiscalité alourdie, et notamment de taxes Zuckman. Ça s'appelle une équation impossible à résoudre, hein, sur le papier. En ne brusquant personne, puisque pour l'instant, il consulte, hein, il ne communique pas beaucoup, Sébastien Lecornu risque toutefois de décevoir tout le monde et devenir, c'est ce que je vous disais au début de cet article, le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, record aujourd'hui détenu par Michel Barnier. Nouveau record ou pas? La pression de la rue avec une deuxième journée de mobilisation syndicale jeudi, tout comme le renouvellement du bureau de l'Assemblée au milieu de semaine.
vont compliquer la tâche déjà ardue du fidèle d'Emmanuel Macron. Alors si vous me demandez, bon c'est bien beau tout ça, mais c'est un peu de la politique politicienne, qui soutient qui, blablabla. Et sur le fond, quel est le programme de gouvernement de ce Premier ministre? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein, le chef du gouvernement n'a toujours pas dévoilé la copie de départ. Voilà. Les grandes lignes du budget 2026, tenues secrètes, ont toutefois été envoyées au Conseil d'État, donc a priori il y a un budget qui a été prévu, quoi. Bon, voilà où on en est. Le Figaro fait consacrer également un dossier à ce sujet. Le Cornu, déjà sous la menace d'une censure des socialistes, en écartant la taxe Zucman, hein, ça c'est l'info du week-end, et l'abrogation de la réforme des retraites, le Premier ministre n'a pas répondu à quoi? Aux attentes du PS, qui se dit prêt à renverser le prochain gouvernement. C'est les informations que nous lisions à l'instant dans Le Parisien. Que dit Yves Tréhard à ce propos? Yves Tréhard, c'est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, si je dis pas de bêtises. C'est mission impossible. Elle va être intéressante cette semaine. On en sort un peu plus en fin de semaine en vrai. Voilà. Ah! Pourquoi je vous ai mis le dossier du Figaro? Parce que vous allez me dire, ben, pour l'instant, le Figaro répète un peu les éléments qu'on a vus dans Le Parisien. Parce que on a un article sur la dissolution. Regardez en bas de la page 2, là. Ça, c'est très intéressant. Cette dissolution que Macron et Le Cornu veulent éviter. La dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez compris. Lisons ça. On ne va pas en faire tous les ans. Ça gâche. Emmanuel Macron en privé, devant ceux qui l'interrogent sur la possibilité, hein, d'une nouvelle dissolution pour sortir de cette crise politique. Hein. Si, imaginons que le Cornu batte un record de rapidité à Matignon, la pression va être forte sur le président Macron en disant, dis donc, ça fait X premiers ministres que tu nommes, ça ne fonctionne pas, il faut une nouvelle donne politique, il faut une nouvelle donne politique, faut demander aux Français de désigner une nouvelle assemblée, de laquelle se dégagera peut-être une majorité un peu plus claire, et on verra bien. Bon. Macron dit, on ne va pas dissoudre tous les ans. Le chef de l'État considère qu'il a pris ses responsabilités, puisqu'il a déjà dissous en 2024, avec les conséquences que l'on sait, hein. Dissolution éminemment ratée. Merci Anto Conseil pour ce raid, c'est adorable. Merci à toi, merci à vous. Merci de nous rejoindre. On est dans la première actu de ce matin, c'est de savoir si Sébastien Lecornu va sauter très très vite à la tête de Matignon, et si, question qu'on se posait là à l'instant, est-ce que le président Macron pourrait dissoudre à nouveau l'Assemblée? Bon, rappelons que la dernière dissolution s'est très très mal passée. Hein, il avait déjà une majorité relative extrêmement faible à l'Assemblée. Il s'est dit, tiens, je vais. Qu'est-ce qu'il s'est dit d'ailleurs? Bonne question. Hein, je vais demander aux Français un petit peu de nous éclaircir tout ça. Résultat, il s'est retrouvé avec une majorité encore plus faible. Que dit Le Cornu à ce propos? L'Assemblée n'a jamais autant ressemblé au pays, celle d'aujourd'hui. Ceux qui réclament la dissolution sont ceux qui l'avaient déjà réclamée la dernière fois. Dès que les politiques ne sont pas capables de s'entendre entre eux, est-ce qu'on va dire que c'est la faute du peuple? Non, le peuple a raison. Désormais, chacun doit faire son travail. Holdinox nous pose une très bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas un délai à respecter entre deux dissolutions? Oui, un an. Un an, un cool-down d'un an, mais le délai, il est passé. Donc, sur le papier, juridiquement, Macron peut dissoudre à nouveau. C'est pour ça qu'on se pose la question ce matin. Donc, raison officielle, pourquoi Macron ne veut pas dissoudre? Parce qu'il dit, bah, on l'a déjà dissous il y a, en gros il y a un an, on va pas demander aux Français de voter tous les ans. Les Français nous ont dit ce qu'ils avaient à nous dire sur les gens qu'ils voulaient voir à l'Assemblée, voilà, donc c'est pas la peine. Et le Figaro écrit, le président a d'autres raisons moins avouables de ne pas activer une nouvelle fois l'article 12 de la Constitution, hein, pour la dissolution. Un député Renaissance expose les scénarios redoutés en cas de dissolution. La première option, c'est une majorité absolue pour le Rassemblement national. Le RN, qui ne cesse de progresser à chaque élection en France, vous le savez depuis des dizaines d'années, dissolution, il y a un monde où le RN progresse encore et a une majorité absolue à l'Assemblée, donc une capacité réellement à gouverner le pays. Et là, le président Macron n'a plus le choix. Il est obligé de nommer un Premier ministre d'extrême droite. La deuxième option, c'est que les législatives donnent la même assemblée qu'aujourd'hui, en pire encore, c'est encore moins lisible avec une assemblée extrêmement divisée, quoi. Un bloc de gauche, un bloc de droite républicaine, centriste, macroniste, un bloc d'extrême droite, etc. Le chef de l'État le sait, en cas de dissolution, ses troupes, comprenez ses troupes macronistes, reviendraient probablement à l'Assemblée encore moins nombreuses qu'à l'été 2024. Pupito de Berlin, je te dis à demain. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'était un plaisir. À demain matin, salut. Ouais. Donc, on comprend que le président Macron soit pas... Ah bah Sugar, tu... Ah bah je l'ai... Du coup, je l'ai... Ah bah je le refais. On a été trop vite avec avec Sugar. On l'a dit à demain à notre ami Pupito, mais ensemble quoi. Donc on comprend pourquoi Macron veut pas dissoudre à nouveau. Alors, vous allez me dire parce que vous réfléchissez très vite. Ok, si le cornu saute. Si le cornu saute à nous et que Macron ne veut pas dissoudre pour les raisons qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Hein? À entendre les proches d'Emmanuel Macron, tout porte à croire que ce dernier tenterait à nouveau de nommer un Premier ministre en cas d'échec de Sébastien Lecornu. Le truc sans fin. Voici Blacky Nounours, c'est là où je veux en venir. J'arrive. T'as pré-shot, c'est très bien. Hein? Des candidats pour Matignon, il y en aura toujours. Sourit un député. Même si la pression pour dissoudre sera forte, le chef de l'État sera tenté de gagner du temps. Gattan dit il va bien être obligé de dissoudre. Rien ne l'oblige juridiquement. Et à partir de mai 2026, ce n'est pas très longtemps en vrai, il aura un nouvel argument pour ne pas dissoudre. Ne pas lier les mains de son successeur, puisque la Constitution, on a rappelé le cooldown, interdit de convoquer à nouveau les législatives dans l'année qui suit une dissolution. À partir de mai 2026, qu'est-ce que va dire le président Macron? Ah ben moi je dissous pas. Hein. Ah ben non, parce que en 2027, il y a une nouvelle présidentielle, et si je dissous maintenant, ça va empêcher le prochain président, ou la prochaine présidente, de dissoudre. Voilà. Donc, s'il tient jusqu'en mai son dissoudre, après il aura un argument en mode eh non, moi je fais pas ça pour moi, hein, je fais ça pour l'autre, hein, celui d'après. C'est extrêmement intéressant. Donc on a un président Macron qui veut rester au pouvoir, puisqu'il a exclu, l'hypothèse où il démissionnerait. Il ne veut pas dissoudre, parce que le risque, c'est que le RN arrive au pouvoir ou que l'Assemblée soit encore plus divisée qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, a priori, ben, il va faire ce qu'il fait depuis un moment déjà, c'est-à-dire, même s'il n'est pas soutenu par l'Assemblée, il va continuer à nommer des premiers ministres, hein, comme Bayrou, comme Lecornu, comme comment il s'appelait le Barnier, en leur demandant à chaque fois, bon bah les gars, c'est impossible, hein. Mais faites-le. Hein, formez-moi un gouvernement, bon il ne sera pas soutenu par l'Assemblée, c'est pas grave. Proposez-moi un projet, bon il ne sera pas soutenu par l'Assemblée, oh, c'est pas grave. Préparez-moi des budgets, hein, bon ils ne seront pas votés, mais c'est pas grave. Waouh. Eh ben, alors je résume un peu exprès pour forcer le trait, mais c'est un peu la situation dans laquelle on est, quoi. Voilà. Alors je vous le résume, moi, avec mes mots, vite fait, mais c'est exactement ce que nous dit la presse ce matin, quoi. C'est intéressant. Et ça, c'est la... Pardon, mais je ne suis pas anti-macroniste primaire, mais cette situation politique-là, que je décris là, bah, c'est le président Macron qui l'a provoqué. En ratant les législatives qui ont suivi sa réélection, en ne s'impliquant pas dans cette campagne, pardon monsieur Macron, mais vous ne vous êtes pas impliqué dans cette campagne, pas comme vous auriez dû le faire, en décidant de dissoudre une première fois au pire moment, voilà, dissolution totalement ratée, et puis aujourd'hui en ne tirant pas les conclusions de cette situation. Quoi. Voilà. Donc on va, cette situation un peu bizarre, un peu bloquée, politiquement, eh ben. Si je crois à Le Figaro, on risque de la connaître jusqu'en 2027. Voilà. Sauf, surprise, deux voies possibles que je vois comme ça. Une dissolution de l'Assemblée malgré tout ce qu'on a dit. Ou une démission du président Macron en disant, un côté un peu comme De Gaulle en 69, écoutez, je tire les conclusions de la situation politique. Voilà. Et pour le. Moi, je peux lui écrire le discours, hein, s'il veut. Et pour le bien du pays, pour le bien de la France, Je constate un blocage aujourd'hui des institutions, de la vie politique. Or, ça n'est pas que de la politique, c'est aussi le fonctionnement du pays, le vote des recettes, des dépenses, le budget, les réformes dont notre pays a besoin. Tu vois, je peux vous écrire le discours. Et je décide de démissionner. Ça peut se marketer, hein. Ça peut se marketer. Voilà. Donc c'est de la politique, comme je vous le dis souvent, la politique, tout est possible. C'est bien ça qui est fascinant d'ailleurs. Vous êtes un peu sceptique sur le sujet. Hein. Oui, pour la France, avec une posture un peu gaulliste, quoi. Je dirais gaullienne même. Voilà. Bon, moi ça ne m'arrangerait pas parce que moi, toute notre stratégie, nous ici pour 2027, donc pour nous présenter à la présidentielle 2027, c'est 2027, quoi. 2026, là, on n'est pas prêt, hein. Il faudrait vraiment accélérer, quoi. Comme ce matin pour la revue de presse. Merci Lupin pour le Prime. Oui, Gaulienne, je suis d'accord. Même à 13h, c'est pour ça que je dis les deux. T'as pas pouvoir tout faire, hein. Pas pouvoir devenir champion d'e-sport sur Valo, faire de la revue de presse, préparer la présidentielle, ça va être compliqué, quoi. Voilà, bon. Bon, suite des événements, suite des épisodes, a priori, au courant de la semaine, pour voir ce qui va se passer avec Monsieur Le Cornet. Je vous emmène aux États-Unis. Allez, let's go. C'est un sujet éminemment complexe, mais je trouve assez bien décrit ce matin par Le Parisien. On est à combien là? On est à... Tiens, il faut que j'actualise votre sommaire sur TikTok aussi. 39 minutes. L'actu est vraiment passionnante ce matin. Je vous ai mis une petite flèche ou pas? Je n'ai même pas mis une petite flèche. Ami TikTok, oh là là, je manque à tout, mais moi, je mets une petite flèche pour vous mettre où on en est. Alors, on est à Trump et la démocratie. Voilà. C'est mieux. Voilà. Qui résiste encore à Trump? Alors, ce titre n'est pas très très clair. Et en fait, je vous résume autrement cet article, c'est est-ce que la manière dont Donald Trump mène son deuxième mandat, est-ce que cette manière de faire menace ou pas la démocratie américaine? Voilà. Et on a un article du Parisien sur ce sujet éminemment compliqué qui est relativement simple et clair, je trouve. Les États-Unis voient leur système démocratique testé jour après jour par la majorité républicaine acquise au président. Dernier exemple en date, les poursuites engagées contre l'ancien patron du FBI. C'est ça l'actualité dont nous parle le Parisien pour comprendre ce qu'il se passe. La vidéo dure une cinquantaine de secondes. On y voit un ancien directeur du FBI. Ça n'est pas rien quand même. Bien sûr, couler l'humanité, l'atome. Bien sûr. On lit tous les quotidiens nationaux. C'est pour ça que je ne vous lis pas Mediapart au quotidien. Tu me parles de Mediapart, alors que c'est un média que je lis personnellement, que je trouve de grande qualité. Mais ici, on lit les quotidiens. Parce qu'on ne peut pas tout lire. Et j'aimerais bien. Donc, on a quand même un ancien directeur du FBI. James Comey, 64 ans. Qui, dans une vidéo, résume en quelques phrases la situation politique actuelle aux États-Unis. Et il dit, cet ancien directeur du FBI, écoutez, ma famille et moi savons depuis des années que tenir tête à Trump a un prix. Pardon. Mais nous ne pourrions imaginer vivre autrement, assume face caméra ce haut fonctionnaire. Pardon, je rigolais pas à propos du monsieur du FBI, je rigolais à propos d'un commentaire sur Twitch, sur Mediapart, manifestement de quelqu'un qui n'a pas trop apprécié la condamnation de Nicolas Sarkozy. J'essaie de rentrer un petit peu dans vos têtes. Ma famille et moi savons depuis des années que tenir tête à Trump a un prix, mais nous ne pourrions imaginer vivre autrement, assume face caméra ce haut fonctionnaire. Nous ne vivrons pas à genoux, dit cet ancien directeur du FBI, vous ne devriez pas non plus. On dit que la peur est l'arme du tyran. Je n'ai pas peur. J'espère que vous non plus. Bon, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Quelques heures plus tôt, pourquoi cet ancien directeur du FBI parle-t-il? La justice américaine venait d'annoncer l'inculpation de ce monsieur, hein, ancien patron de 2013 à 2017 du FBI. Hein. Il lui reprochait d'avoir menti devant le Congrès en 2020. Mais personne n'est dupe, écrit le Parisien. Ses poursuites demandées de manière insistante depuis plusieurs semaines par Donald Trump constitue en réalité une mesure de rétorsion contre un des rares dirigeants américains n'ayant pas voulu céder aux pressions de la Maison-Blanche. Rien ne résiste au président américain depuis son retour au pouvoir, nous explique encore le journal. Le pays assiste sidéré à un rouleau compresseur de déclarations, de décisions, de coups de pression que personne n'arrive à stopper, ni même freiner. Voilà, la question, c'est celle de la séparation des pouvoirs, Arsus, exactement. La séparation des pouvoirs s'est effacée derrière l'idée d'un président tout puissant, que rien ne doit limiter, puisqu'il a été élu par le peuple. Or, dans la lecture traditionnelle des institutions américaines, on a un président qui est certes très puissant, mais qui est limité par ce qu'on appelle des contre-pouvoirs, par une séparation des pouvoirs avec le Congrès, notamment avec la Cour suprême, et même les médias parfois qualifiés de quatrième pouvoir. Le procureur de Virginie, qui refusait de déclencher des poursuites contre James Comey parce qu'il estimait les charges insuffisantes, James Comey c'est le patron du FBI, ce magistrat expérimenté a été poussé vers la sortie et remplacé par une ancienne avocate de Trump, qui a rédigé l'acte d'accusation sans aucun scrupule. Donald Trump a déjà désigné ses prochaines cibles, la procureure de New York, Laetitia James, le sénateur démocrate de Californie, Adam Schiff. Les éventuelles fautes seront trouvées ultérieurement. Ces deux figures publiques ont surtout déclenché le courroux du président, la première pour l'avoir poursuivi dans une affaire de surestimation de la valeur de ses biens, le second pour avoir été à l'origine d'une procédure de destitution après l'envahissement du Capitole le 6 janvier 2021. Donc a priori, on sait déjà qui vont être les prochaines cibles de Trump. Bon, quant aux fautes contre ces personnalités, on trouvera bien, nous dit le Parisien. D'ailleurs, en appui de cette analyse, les propos de Trump lui-même, on ne peut pas attendre plus longtemps, cela affecte notre réputation, notre crédibilité, dit Trump. Ils ont essayé, ces deux personnes, de me destituer à deux reprises. Ils m'ont poursuivi 5 fois alors qu'il n'y avait rien. La justice doit être rendue maintenant. En gros, hein, son discours, c'est si lui a été poursuivi, ses opposants peuvent bien l'être aussi, puis on trouvera bien quelque chose. Petite question, demande Ox, le brochet dans le chat, avec ce type de comportement, est-ce qu'on ne s'approche pas du fascisme? Alors on a lu un article vendredi dernier qui parlait en tout cas d'une manière de gouverner qui s'approche de plus en plus de... je vais vous retrouver l'article, hein, c'est ce qu'on fera de mieux. Quel était le terme qui avait été utilisé par la presse? L'autocratie. Bien, oh, la mémoire du chat, vous êtes incroyable. Voilà. Oui, illibéral aussi. Ouais. Voilà. Là, on avait un papier dans La Croix qui posait cette question. Est-ce que les États-Unis sont en train de glisser vers l'autocratie? Après, vous pouvez mettre d'autres mots si vous le souhaitez. C'était le mot utilisé par cet article de La Croix. Je reviens à l'article du Parisien de ce lundi. Méthodiquement, jour après jour, Trump teste les limites de la démocratie américaine. Il est loin le temps du premier mandat de Trump où le républicain devait composer avec des équipes qu'il n'avait pas choisies, hein, au sein de l'administration. Trump 2 a eu 4 ans pour se préparer à son retour, achevé d'exercer une emprise toujours plus forte sur la droite américaine, sur le parti républicain. Après avoir remodelé, vous le savez, la Cour suprême à son avantage, en nommant des juges, hein, 3 juges conservateurs sur les 9 de l'institution ont été nommés pendant son premier mandat. Il a fait en sorte d'infiltrer tous les arcanes de la société avec des personnes de confiance dans les tribunaux, les instances chargées d'organiser les élections, à la tête du FBI, et plus généralement, dès que la possibilité lui en a été donnée, il a placé des fidèles au poste de responsabilité. Ces derniers mois, il s'est engagé, ça c'est assez nouveau aussi, hein, dans une lutte sans merci avec la Fed, la Réserve fédérale américaine, accusé de ne pas baisser les taux assez rapidement. Voilà. Il a essayé de pousser à la faute le directeur, il s'en est pris à la gouverneure de la Fed. Je vous lis pas tout l'article, je vous lis l'essentiel. La société civile, devant tout ce qu'on est en train d'évoquer, pourquoi il n'y a pas plus de mobilisation aux États-Unis sur tous ces sujets? La société civile a tenté de faire entendre sa réprobation par d'amples manifestations qui n'ont cependant pas duré. Les résistances sont locales, de la part d'élus, d'assos, qui s'opposent notamment aux pratiques musclées de l'ICE, la police de l'immigration, dont on a parlé ici. Au pays de la liberté individuelle, l'organisation collective est loin d'être la norme. L'Amérique est abasourdie, certains dans l'opposition tentent de sonner l'alerte, voilà, notamment dans le camp démocrate. Voilà. Bon. Petit épisode de comment Trump mène ce deuxième mandat. Voilà. Et le dernier épisode que nous propose Le Parisien, là, c'est la charge de Trump contre l'ancien président du FBI. Je voulais un petit peu et j'enchaîne. J'ai tellement l'impression que les démocrates sont silencieux, dit 7-7, ben, c'est un peu ce que dit l'article, oui. Je vous lis. Il y a Crocroll qui dit franchement, Trump n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Bah si. Ah bah si, il est président des États-Unis, donc on n'a pas le choix. Si tu veux. Ce n'est pas en niant le problème, si problème il y a, qu'il disparaît. Ce qui est sûr, c'est que Trump a révolutionné le paysage politique américain, quoi. Enchaînons. Le studio, on en parle au quotidien. Vous savez quoi? Enchaînons d'autant plus vite qu'on reparle de Trump, mais à propos de Gaza, à propos des Palestiniens également. Hop, 49 minutes. Je vous change le TC. C'est parce que ça, j'ai une vraie surprise en lisant ce. J'ai une vraie surprise en lisant ce papier ce matin. Et je voulais vous en parler. Attends, je vous mets la petite flèche du côté de TikTok également. Voilà. Attends, on va parler de TikTok aussi ce matin. Donald Trump, sûr de son plan pour Gaza et un État palestinien. Alors. Quand on essaye de. Quand on pense à Trump et à la Palestine, Trump et Gaza, on se souvient notamment de son plan surréaliste de Riviera. À un moment, Trump a dit, il y a quelques semaines de cela, Gaza, c'est pas compliqué. Il suffit de demander à tous les Palestiniens de partir, hein, parce que manifestement, ça pose un problème à Israël. On les met ailleurs, ou bah, dans des pays de la région qui voudront bien, on leur donne un peu de sous. Ils partent, et puis comme ça, il n'y a plus de problème, et on crée une riviera. Petite côte d'Azur, tranquillou, des beaux immeubles, des hôtels, ça attire des touristes du monde entier, et tout le monde est content. Vraie proposition, hein, c'est écrit noir sur blanc, voilà. Bon, Trump-Gaza, c'était ça. Et là, il y a du nouveau. Trump, sûr de son plan pour Gaza, n'est pas patient. Moi, je lis ça ce matin dans le Figaro, je me dis, ok, bah, le plan pour Gaza, je le connais, c'est la riviera. Bah, pas du tout. Ça a changé. Bah, le problème avec Trump, c'est que souvent, ça change. Merci, Lupane. Flinche à faux, j'ai plus la gastro, me dit Ragnoc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attention au virus en ce moment, hein, entre le Covid qui revient fort, là, enfin, qui se transforme en grosse grippe là, au niveau des symptômes, là. Faites attention à vous quand même. Hein. Le projet qui pose les bases d'un après-guerre à Gaza est politiquement explosif pour Netanyahou, soumis à la pression de son aile droite. Depuis des semaines, je vous dis, que ça nous plaise ou pas, celui qui a la clé de la fin de l'offensive de l'armée israélienne contre Gaza, c'est Trump. À moins que l'Union européenne, subitement, décide de se mettre d'accord pour une pression radicale contre Israël et des sanctions. Mais, ouais, que ça nous plaise ou non, c'est Trump qui a la clé. Et bien là, il se passe quelque chose. Trump affiche sa certitude. Son deal mettra fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Alors, le président américain qui doit recevoir Netanyahou aujourd'hui. À la Maison-Blanche se dit convaincu d'avoir trouvé la formule d'un règlement du conflit en 21 points. Oubliez la Riviera, c'est autre chose. Selon son conseiller Steve Witkoff, il a présenté les grandes lignes du plan lors d'une réunion avec des responsables arabes en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelques éléments de ce plan ont fuité dans la presse américaine. L'accord prévoirait, écoutez, la fin immédiate de tous les combats, la libération des 48 otages, dont 20 encore vivants, 48 otages israéliens, ainsi qu'une démilitarisation de l'enclave. En échange, les combattants du Hamas bénéficieraient d'une amnistie à condition de s'engager à une coexistence pacifique avec Israël et la possibilité de quitter l'enclave pour ceux qui le souhaitent. L'accord promet ensuite une aide humanitaire d'urgence, enfin, le truc semble assez construit. Le document mentionne la remise en état des réseaux d'eau, d'électricité, d'égouts, la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l'entrée d'équipements lourds pour déployer les décombres. Cette assistance sera acheminée sous supervision des Nations Unies. Voilà, parce que quelqu'un me disait, c'est une vraie bonne question d'ailleurs, je remonte dans le chat, où est-ce que c'était, ça parlait, Biega disait néocolonisation. Ça aurait été sous la houlette des États-Unis, moi je t'aurais dit oui, c'est une vraie question, mais a priori, ce serait sous supervision des Nations Unies, sans ingérence des deux parties. Ah, abricot sec, ça faisait longtemps. Les habitués du chat de TikTok vont retrouver abricot sec, qui vient de revenir parmi nous. Vous allez vous régaler. Le content, le spectacle, ça vient aussi du chat. Là, vous allez vous régaler. Suivez bien les messages d'abricot sec, vous en avez pour un petit moment. Après, les modérateurs, vous les gérez. Alors, les réactions d'Israël et du Hamas. Pour l'instant, pas de réaction. Pour l'heure, ni Israël ni le Hamas ne sont prononcés sur ce plan. Netanyahou négociera ses conditions demain dans le bureau ovale. Car depuis le 7 octobre 2023, attentat du Hamas, le Premier ministre a promis à son aile droite la destruction totale du Hamas. Aile droite comprenait extrême droite. Hein. L'aile droite du gouvernement Netanyahou, c'était l'extrême droite israélienne. Ta gueule, abricot sec, tu nous casses les couilles en vrai. Hein, tu es victime du syndrome du personnage principal. Vous êtes 600 sur TikTok. Et, et comme d'habitude, on ne va entendre que toi. Donc maintenant, tu te calmes, tu t'apaises. Hein, c'est comme quand il y a une petite classe, il y a toujours un qui fait son show là. Tu écoutes, tu essayes d'améliorer tes notes. Et si tu continues à polluer le chat, voilà, eh ben, tu auras un petit théo jusqu'à demain. Hein ? C'est fou ça. T'as pas menti, abricot sec est vraiment spécial. Bah ouais, je sais. Ouais. Après, on est très patient, tu vois. On banne pas d'entrée, mais on dit. Ouais. Donc, prochain message, je te dis à demain matin. Allez, à demain. Voilà. Là, on banne pas, il peut revenir demain. Il peut revenir demain. Bon, on donne toujours une deuxième chance. Toujours. Oh, là, c'est un peu plus apaisé. Donc, ce qui nous intéresse, plutôt que les commentaires d'abricot sec qui vient polluer votre chat sur TikTok, c'est quelle va être la réponse de Netanyahou. Netanyahou, allié à l'extrême droite, vous le savez. Or, le problème, c'est que Netanyahou a promis à l'extrême droite la destruction totale du Hamas. Le ministre de la Sécurité intérieure et président du parti d'extrême droite Force juive a déjà exprimé son opposition à tout accord avec le Hamas. Au-delà de l'urgence, le plan trace des perspectives politiques pour l'avenir de Gaza et de la Cisjordanie. Alors ça m'intéresse. Qu'est-ce que Trump a prévu pour l'avenir politique de Gaza ? Ça me fait rire, les gens de la télé sont comme tout le monde au final, sensibles au mauvais com. C'est pas tout à fait ça, c'est juste qu'en fait, une des choses formidables que permettent un live sur Twitch et TikTok, c'est que des milliers de personnes puissent échanger ensemble. Et en fait, de temps en temps, il y a des... Alors, la liberté d'expression, c'est une chose, mais la liberté d'expression, jusqu'à que ça vienne perturber celle des autres. Et quand t'as un gars qui pop dans le chat, dont tu reconnais tellement le pseudo, parce qu'il est déjà venu la veille et l'avant-veille, vient écrire un message sur deux, non pas pour échanger, mais pour exprimer ses idées. Il n'est pas là pour échanger avec vous. Il est là juste pour se faire entendre lui. Voilà. Avec des arguments plus ou moins intéressants. La première fois, c'est amusant. La deuxième fois, on se dit, mais c'est qui le zozo? La troisième fois, on se dit, bon, arrête, parce qu'en fait, tu n'es pas tout seul. Voilà. Et en fait, ma colère n'est pas contre la personne, ni même contre les propos. Ma colère est contre le fait qu'il vient polluer cette expérience que vous essayez de vivre ici, c'est-à-dire d'échanger, malgré nos différences d'analyse et de point de vue, sur l'actualité au quotidien. Ça s'appelle modérer. Voilà. Donc ici, on a une certaine patience avec ces gens-là, et même on aime bien ça parce que personnellement, je trouve que c'est assez amusant, un petit spectacle. Voilà. Mais de temps en temps, on dit à la personne bon, on revient demain, quoi. Voilà. Chill. Alors, revenons à l'extrême droite israélienne. Voilà. Alors, surtout, revenons à ce que Trump prévoit pour l'avenir de Gaza. Au-delà de l'urgence, le plan trace des perspectives politiques pour l'avenir de Gaza et de la Cisjordanie. Il évoque prudemment la possibilité d'un État palestinien. Les conditions pour être enfin réunies pour une voie crédible, note le document. Quoi ? Attends les gars, vous vous rendez pas compte, c'est une révolution. Il y a un document qui est peut-être... C'est des fuites de presse, donc on est super prudent. Il y a un document qui aurait peut-être été validé par Trump qui évoque prudemment la possibilité d'un État palestinien. Mais c'est totalement nouveau. Alors, je ne dis pas que ça va se faire. Donc, immense prudence, immense conditionnel. Mais on est très loin de la Riviera. L'autorité palestinienne est désignée comme la structure chargée de l'incarner après de profondes réformes du gouvernement, si tu m'étonnes parce que c'est pas foufou aujourd'hui, dans l'intervalle, l'administration de Gaza serait confiée à un organisme international, lequel, soutenu et supervisé par plusieurs pays, lesquels ? Question, mais quand même. Alors, là où je vous dis que c'est quand même, si ça allait au bout, une révolution, c'est la réaction de Netanyahou. Cette ouverture heurte de front les positions du Premier ministre israélien. Depuis l'été, Netanyahou a répété son opposition catégorique à toute souveraineté palestinienne. Netanyahou et ses alliés d'extrême droite ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien. Condition sine qua non du retour de la paix dans la région un jour, vous le savez pourtant. Voilà. Et pourquoi il est à ce point opposé? Notamment parce que ses alliés d'extrême droite ne veulent pas entendre parler, et sans les alliés d'extrême droite, eh bien, Netanyahou, il dégage du pouvoir, tout simplement. Et après, il aura affaire à la justice, puisqu'il est poursuivi dans plusieurs affaires. Donc, très intéressant cette rencontre avec Netanyahou et Trump aujourd'hui, ce lundi. Alors ça, petit article, mais moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et si dans les prochains jours on voit des trucs qui bougent, et que Trump se met à faire pression sur Israël, sur le gouvernement israélien, sur Netanyahou, pour mettre fin notamment aux opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, si jamais ça se passe, eh ben, on se souviendra de cet article. Et puis si jamais ça se passe pas, on se dira que c'était un ballon d'essai, c'était des trucs, et que finalement, Trump a reculé. Mais c'est pas inintéressant. Bon, on parle du Proche-Orient tous les jours ici. Littéralement, ça vaut 3 ou 4 heures d'échange quotidien, ce sujet, mais la promesse ici, c'est de se pencher sur toute l'actualité. Je fais au mieux, hein. Mais j'ai pas terminé. Parce que moi, ce que j'aime dans la presse écrite, et on va rester dans ce sujet Gaza et maintenant, c'est que c'est un média qui ne passe pas d'une info à l'autre comme on est habitué maintenant, une info chasse l'autre, et puis ça va. Et puis on a déjà parlé de la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays récemment, dont la France, et bon, on passe à autre chose. Et bien là, on a quelqu'un dans la croix, qui est un avocat essayiste, qui donne son avis sur la reconnaissance de l'État palestinien, et qui prend un peu de recul, et parfois prendre un peu de recul, et revenir sur une actu quelques jours après, en ayant pris le temps de réfléchir, ce qu'a fait cet avocat, eh bien c'est parfois intéressant. Eh bien, lisons ça. In extremis, lisons cet article. Pourquoi avoir reconnu la Palestine? Et cet avocat dit, ou pourquoi nous y serions-nous refusés? Je n'ai pas oublié les images des hordes ignobles le 7 octobre 2023 au petit matin. Pour ceux qui n'ont pas compris, les hordes ignobles, ce sont les terroristes du Hamas qui sont venus frapper des civils israéliens en 2023. Celle de cette jeune femme en sang où la course est perdue de jeunes Israéliens à travers les champs. Cet avocat dit « Je n'ai pas oublié ça ». La réponse d'Israël était inévitable, légitime et cyniquement attendue par le Hamas. Mais qu'on l'appelle génocide, nettoyage ethnique, crime de guerre ou contre l'humanité, ce à quoi nous assistons est la mise en œuvre d'un plan délibéré d'éradication d'un monde entier, d'un peuple entier. Près de 10% de la population de la bande de Gaza a été tuée ou blessée, dont 80% de civils. Soit, à l'échelle de la France, a calculé cet avocat, 7 millions de victimes tuées ou blessées. La destruction méthodique des derniers immeubles de Gaza ne laisse plus de place au doute. Israël rase le territoire, tandis que certains de ses dirigeants vont jusqu'à discuter de la déportation de la population au Soudan, au Somaliland. Il n'y aura pas de place pour les Gazaouis dans cette riviera trumpienne. Cette mine d'or pour le secteur immobilier, selon le ministre israélien des Finances. Parce que Trump est peut-être passé à autre chose, mais pas le gouvernement israélien, lui, qui trouve que cette idée de riviera, c'est l'idée du siècle. Cette reconnaissance n'est pas, contrairement à ce que certains l'ont dit, certains en France, certains éditorialistes dans certains journaux qu'on a lus, certains dans le chat ici, ou encore Marine Le Pen, puisque c'est sa position sur ce sujet, Cette reconnaissance n'est pas la récompense au Hamas que ses opposants brandissent. Elle est le dernier acte à notre disposition face à un pouvoir si sourd à tout appel à la mesure que chacun en réalité est suivi d'une nouvelle escalade. Factuellement, le 12 septembre, l'AG des Nations Unies a largement adopté une déclaration qui constitue une mise au ban du Hamas par les pays arabes. Soutenir la chimère d'une récompense au Hamas, hein, qui est l'un des arguments de ceux qui disent il fallait pas reconnaître l'État palestinien maintenant, c'est in fine faire le jeu du Hamas en accréditant ses prétentions. La vérité est notre intérêt, son contraire. Et puis non, les pays que sont la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie ou le Portugal ne récompensent pas le terrorisme. Fallait-il conditionner cette reconnaissance à la libération des otages? Ça, c'est un argument plus intéressant. L'objection est légitime, dit cet avocat. Cet avocat dit, on a raison de poser cette question. Voilà. Mais combien de milliers de victimes les otages justifient-ils? Demande l'auteur de cette tribune. Et est-elle vraiment sérieuse quand Netanyahou s'en soucie si peu qu'il bombarde les négociateurs à Doha? Les familles des otages israéliens savent que Netanyahou se moque de la question des otages israéliens. L'actualité internationale nous offre assez peu d'exemples de ces conditions posées pour ne pas être remplies, pour que le procédé nous leurre encore. Cette reconnaissance donc de l'État de Palestine, écrit cet avocat français plusieurs jours après, est juste, elle est dans notre intérêt bien compris. Elle pouvait servir de moyen de pression, elle doit servir d'encouragement à l'autorité palestinienne une fois le Hamas délégitimé pour se réformer et agir dans l'intérêt de sa population. Surtout, elle restait sans réaction. Je redis cette phrase. Surtout, rester sans réaction face à l'éradication d'un peuple. C'était ruiner nos prétentions au maintien d'un ordre international fondé sur la paix et sur le droit. C'était soumettre à la vision de ces prétendus leaders forts dans laquelle la brutalité fait la légitimité, ce qui est très à la mode actuellement. Soyons réalistes, même si c'est déplaisant, dans un tel monde, notre Europe n'aurait pas sa place à la table des vainqueurs. Nous ne sommes pas prêts, c'est un avocat qui écrit, nous ne sommes pas prêts à un monde sans règles. Nos intérêts rejoignent la justice qui veut que nous nous fassions plutôt les avocats d'un monde multipolaire fondé sur le droit international. Souvenons-nous que nos incohérences légitiment le désordre mondial ultérieur. Cette reconnaissance était donc juste, mais elle n'est qu'un pas. Hein. Tandis que nous gargarisons de notre propre audace, les Palestiniens s'efforcent encore de simplement survivre. C'est juste un retour sur la reconnaissance de l'État palestinien par un Français, Erwan Lemoredec, qui est avocat et essayiste. C'est intéressant que la Croix lui ouvre ses pages, parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, c'est amusant. Ce sujet du Proche-Orient, on en parle quotidiennement depuis des mois sur cette chaîne, et tous les jours, à chaque fois, ça provoque des débats assez enflammés dans le chat. Certains pourraient s'en fatiguer. Moi, je trouve qu'il y a des sujets qui sont plus importants que d'éviter un chat un petit peu animé. Je vois beaucoup de réactions très pertinentes, mais je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Après, si certains ont décidé de s'enfermer dans leur conviction, là aussi, on m'a manqué de temps. C'est-à-dire dans la Croix, page 22. Voilà. Et le Proche-Orient, nul doute qu'on en parlera également demain. On parle de Sarkozy maintenant, histoire d'apaiser tout le monde. Allez, on est à combien là? 1h06, 1h07, let's go. Sarkozy condamné. Mais des voix sont élevées en France pour dire que c'était un scandale. Alors, c'est de ça dont parle la presse ce matin. Sarkozy contre la justice, 1h07. Voilà, c'est de cette levée de bouclier. Hop, je vous mets la bonne flèche sur TikTok. Putain, j'ai mes doigts qui vont choisir des vieux articles. Là. Il était fort ce sujet aussi sur la. Voilà, je vous le mets là. Alors, Sarkozy versus la justice. Très bien ça. Intéressant. Vous êtes prêts? Voilà, j'adore ça. Tu vois, on n'a pas commencé. Et je vois déjà des scandaleux Free Sarkozy. Et juste en tout, c'est tout ce qu'il mérite. Voilà. Piégeur de moule, magnifique pseudo. Soutien à Sarkozy, victime de harcèlement. Mais oui, mais on se régale. Quelle indignité. Je vous kiffe, c'est incroyable. Très bien, très bien. Je n'ai pas commencé à lire et déjà, c'est le feu. Très bien, très bien. C'est le principe, c'est le principe, c'est le principe. Alors. La justice serait laxiste avec les délinquants et sévère contre les puissants. Vraiment. Quelqu'un a dit, mais c'est quoi ce titre de droite ? Tu n'as pas lu l'article, c'est pour ça. Cet argumentaire, largement développé au lendemain du verdict visant l'ancien président, est un mythe qui ne résiste pas aux chiffres, explique l'avocat pénaliste Martin Vette, voilà, qui, encore un avocat, tiens, qui s'exprime dans Libération, pour dire que cet argument qu'on a, cette petite musique qu'on a entendue ces derniers jours, la justice en France qui serait laxiste, avec les délinquants, hein, trop molles, trop, qui n'emprisonnent pas assez, et sévères contre les puissants, cet avocat dit « bullshit ». Et il va le démontrer. Let's go. Une semaine aura suffi à cristalliser la schizophrénie ambiante. Un laxisme indigne quand elle remet en liberté certains mis en cause dans l'affaire de Tourcoing, la justice se montrerait d'une intransigeance indigne également quand elle condamne Nicolas Sarkozy. Cette opposition grandissante entre une justice taxée de laxisme envers les délinquants de droit commun et implacable avec ses prétendus ennemis idéologiques accusés d'infractions perçues comme moins graves que les premiers, ne repose sur aucune base factuelle sérieuse, nous dit cet avocat. Cela relève même du mythe, dit-il. Un mythe relayé en abondance par nombre de personnalités publiques, notamment de droite ces derniers jours, un mythe presque jamais questionné par les journalistes, dit cet avocat, bon, qui s'exprime quand même dans les colonnes d'un journal, mais peu importe. Résultat, l'idée fausse d'une justice trop clémente et ancrée dans l'esprit du public, hein, vous l'entendez tous les jours, ça, au déjeuner dominical avec tonton Robert, ah ouais, la justice est trop laxiste, vous connaissez ça. Résultat, l'idée fausse d'une justice trop clémente est ancrée dans l'esprit du public et ce constat erroné partagé par les Français. Certains sondages nous révèlent que 80% des Français jugent la justice trop faible. C'est une calamité démocratique, dit-il. Et il va développer, il va expliquer, il va donner quelques arguments. En effet, dire que la justice est laxiste n'est pas une petite accusation. Cela sous-entend qu'elle ne protège pas les Français, donc c'est vrai que c'est très grave, en ne sanctionnant pas ou pas assez les personnes condamnées, voire qu'elle est la complice de ces derniers, ce qui revient à jeter le discrédit sur l'institution judiciaire dans son entier. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est bien parce qu'il y a des gens qui surréagissent à cet article, mais qui l'ont, alors qu'on ne l'a pas lu encore. Mais ils sont déjà ou pour ou opposés. Alors qu'on n'a pas lu l'article, on n'a pas entendu les arguments. Mais vous êtes déjà pour ou contre. C'est formidable. Certains, hein, pas tous. D'abord parce que les politiques ont une approche irresponsable, consistant à jouer la carte de l'émotion. Légitime, suscité par tel ou tel fait divers, pour avancer des propositions de réforme toujours plus répressives de la justice pénale. Émotion, justice. Rarement il leur est demandé sur quoi ils se fondent pour affirmer qu'une nouvelle loi serait plus dissuasive que la précédente. Alors que nous savons depuis environ 250 ans, et Cesare Beccaria, que même la peine de mort n'a pas cet effet dissuasif sur les criminels, ce que toutes les études ont démontré depuis. C'est l'un des arguments utilisés par les opposants à la peine de mort pour expliquer que ce n'est pas la peine de mort. Hein, contrairement à ce que certains affirment, qui peut dissuader les criminels de commettre les crimes les plus graves. Mais que cela ne tienne, toute remise en cause des propositions populistes est perçue comme une injure aux victimes. Hein, le fameux « aller expliquer ça aux parents de la victime », qu'on a peut-être lu dans le chat tout à l'heure, je ne sais pas, qui est un classique. L'émotion toujours. Et la dictature de l'émotion rend impossible le débat d'idées fondé sur des faits et non la compassion légitime que l'on doit à celle-ci, la compassion qu'on doit aux victimes. La justice est ainsi devenue la variable d'ajustement d'un personnel politique en manque d'autorité. L'avocat, là, il dénonce un peu le fait que les politiques, voilà, font preuve un petit peu de démagogie en tapant sur la justice, parce qu'il sait que ça brosse une partie de l'opinion publique dans le sens du poil. Et puis, il est bien commode de taper sur une institution en procédure complexe et incomprise du grand public, dont les membres, les magistrats, sont soumis au devoir de réserve, ce qui les empêche de donner la réplique dans le procès qu'il aurait fait. Bon, je lis pas tout l'article parce qu'on manque de temps. Hein. Quand je passe des passages, c'est pas parce qu'ils m'intéressent pas ou parce que j'ai envie de les censurer. Parce que certains me disent « Hey, t'as oublié une ligne !» C'est pas une dictée, hein. Le problème, c'est qu'on manque de temps pour tout lire. Sinon, on lit plus que 2 ou 3 papiers par jour. Justice laxiste. À force d'être martelé lors d'interviews ou de débats télévisés, c'est devenu un slogan et presque une vérité révélée. Il y a zéro débat là-dessus. Hein. Rarement et pour ainsi jamais remise en cause. Beaucoup d'avocats, dont je suis, n'en peuvent plus de l'entendre, dit-il. D'abord parce que cela ne correspond en rien à l'expérience du terrain que nous avons des tribunaux, dit-il, mais aussi et surtout parce que toutes les statistiques le démentent. Il suffit de se pencher sur l'état des prisons pour entrevoir la réalité. Environ 85 000 détenus en France pour 62 000 places de prison. D'après le rapport annuel 2024 sur les statistiques pénales du Conseil de l'Europe, nous sommes parmi les États membres le troisième plus mauvais élève en matière de surpopulation carcérale. La faute à des peines prononcées de plus en plus sévères et de plus en plus longues. Leur quantum a ainsi augmenté de 30% depuis 2014. La France se place parmi les pays européens qui a le plus fort taux. Il y a plusieurs de moules qui ne cessent de répéter « vous manipulez l'information ». Bah, toi, tu manipules l'orthographe et la grammaire, et je ne me fâche pas pour autant. Donc, chacun son tour. Écoutez cet argument. La France se place parmi les pays européens qui a le plus fort taux d'incarcération. 112 détenus pour 100 000 habitants. Pour une médiane européenne à 105, selon le même rapport. C'est plus du double de la Norvège et de la Hollande, 54 chacun, et très loin devant l'Allemagne, 71. La France emprisonne deux fois plus... En 1982, le taux d'incarcération était alors de 57 détenus pour 100 000 habitants. C'est les chiffres, ça. La société était le plus sûre aujourd'hui qu'en 1982. Le discours du « c'était mieux avant » ne résiste pas non plus à la réalité factuelle. Il y a environ deux fois moins de crimes aujourd'hui que dans les années 80. Car l'idée selon laquelle une société qui incarcère plus est une société plus sûre relève aussi du fantasme, sinon les États-Unis seraient un paradis sur Terre avec leur record mondial de taux d'incarcération, 541 détenus pour 100 000 habitants aux États-Unis. Contrairement enfin à l'idée reçue selon laquelle les peines ne seraient pas exécutées, 95% des peines d'emprisonnement ferme sont exécutées en France. C'est vrai que c'est pas l'idée reçue qu'on a d'ailleurs. La justice française est dure, dit-il. Certains semblent l'avoir découvert jeudi. Comment combler le décalage immense entre le sentiment des Français et la réalité factuelle? C'est la responsabilité de chacun. Je pense qu'il va parler de la responsabilité des politiques et peut-être des médias aussi. Il y a LMB qui sait écrire mais qui ne sait pas lire, qui spamme dans le chat, encore quelqu'un qui vient polluer le chat. Samuel, que penses-tu de Netanyahou? Si tu regardes le sommaire, tu regarderas qu'on a parlé de Gaza juste avant. Donc tu en déduiras qu'on a parlé de Netanyahou tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à aller consommer le replay de ce live sur Twitch, sur YouTube, en audio, en podcast également, ou les dizaines ou les centaines de streams que nous avons consacrés à la question depuis longtemps. Mais je vais pas revenir en arrière parce que toi, tu viens d'arriver dans le chat. Donc, le sommaire, il est pour ça. Regarde, c'est écrit. Alors, à qui la responsabilité, finalement, de ce regard erroné que nous aurions sur la justice? Aux politiques, aux journalistes, aux professionnels de la justice. Il appartient de mettre en avant les chiffres sourcés plutôt que les affirmations toutes faites, les impressions, les opinions, l'émotion. Cela n'empêchera en rien le débat, celui-ci sera au contraire enrichi, à l'inverse, comme le soulignait Hannah Arendt, qui est une philosophe allemande, si je ne dis pas de bêtises, qui a beaucoup travaillé sur le totalitarisme. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. C'est une tribune, c'est un avis, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec ce monsieur. Il s'appelle Martin Vett, il est avocat au barreau de Paris et il dit que c'est un peu poujadeau et démago de toujours taper sur la justice et que si on se penche sur le sujet avec un peu plus de précision, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont battues, qui sont dissipées, quoi. Je vous lis. Merci d'être aussi nombreux ce matin d'ailleurs. Merci Maître Gregou, c'est intéressant ce que tu as écrit. Je vous invite à lire dans le chat Twitch le commentaire de Maître Gregou. Grégou, pardon, je ne sais pas comment on pense. Merci Anne. Après, ce n'est qu'un avis. Hein. C'est intéressant ici, c'est qu'on expose des opinions, des analyses, des idées, puis après, vous faites votre propre opinion, vous. Bonjour Samuel, je fais beaucoup de route. Je rêverais que tu sois sur Deezer en podcast, nous dit Hugo Martin Moreno. Hugo, ton message est tellement sympa. Depuis lundi dernier, nous sommes en podcast. C'est très nouveau, c'est pour ça que tu n'es pas au courant. On est en podcast tous les jours, à partir de 16h, la revue de presse du matin, tous les jours du lundi au vendredi. Elle est postée en podcast sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes audio de podcast. Voilà. Piégeur de moule, on t'a laissé la parole pas mal aujourd'hui. Hein, je te dis à demain, on a l'habitude. Voilà. Bonne fin de journée, mon chouchou. Merci Shrimp75, merci Mirette, merci Charlie Tortue, merci Lupin. Merci Nico. Salut Nico. Merci Nicolas, merci Yanouf. Alors, donc on a là un regard global sur la justice et puis on va en venir un peu plus précisément sur la question de Nicolas Sarkozy. Après le jugement Sarkozy, la droite fait le procès de la justice, c'est les arguments que vous avez entendus dans les prochains jours. C'est page 9 dans l'Humanité, avec des syndicats de magistrats qui dénoncent les menaces à l'encontre de la juge qui a condamné l'ancien président de la République ainsi que les attaques contre l'institution judiciaire. Président de la République, Sarkozy était censé être le garant des institutions, écrit l'humain. Maintenant qu'il n'est plus chef de l'État, il leur applique un traitement au Karcher. Karcher, vous connaissez. Comment condamné jeudi en première instance, il y a appel, mais a priori ça ne va pas le détourner de la case prison. À 5 ans de prison avec exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on a pu dire ici dans cette revue de presse de ce sujet, vous l'avez, c'était dans la revue de presse de vendredi dernier. Il s'est défendu, Sarkozy, dans un entretien au Journal du Dimanche, donc hier dimanche, propriété du groupe Bolloré, le JDD qui a été racheté il y a quelques années. Dans les colonnes du Média, qualifié par l'UMA d'extrême droite, d'ordinaire peu amène avec les reprises de justice, ça c'est drôle, la description en fait de la journée de vendredi de Sarkozy en prélude à son entretien est dithyrambique. À peine, ça c'est le JDD qui écrit. À peine sorti de l'impasse où elle vit avec son épouse et sa fille, un premier passant l'arrête pour lui témoigner son soutien, son incompréhension face à une justice injuste. 10 mètres plus loin, nouvel encouragement, un autre et un autre. Certains automobilistes s'arrêtent en pleine rue pour le saluer et critiquer parfois vertement cette justice censée être rendue au nom du peuple français. Il n'est pas allé voir un match de foot aussi ce week-end ? J'ai cru voir des images où il était au stade. Au lendemain du verdict, l'ancien président, dont les avocats ont indiqué qu'il ferait appel, se dit donc serein, et malgré sa condamnation aussi injuste qu'infamante, dit-il, veut croire que le délibéré prouve surtout que toute l'accusation PGOC s'est effondrée. Selon lui, on cite toujours Sarkozy, c'est bien que l'humanité cite Sarkozy en vrai. Je suis donc condamné parce que le tribunal estime possible, sans pouvoir à aucun moment le prouver, que j'aurais pu laisser deux de mes collaborateurs envisager d'obtenir un financement illégal pour sa campagne électorale de 2027 auprès des autorités libyennes, je précise. Alors quand on se penche sur les attendus du jugement, c'est comme ça qu'on dit, non ? Sur la motivation du jugement par les juges, par la juge, comme on l'a fait vendredi, on se rend compte que il me semble que c'est faux. C'est-à-dire que je suis condamné parce que le tribunal estime possible sans pouvoir à aucun moment le prouver. L'association de malfaiteurs, qui est la seule chose pour laquelle Sarkozy a été condamné, hein, pour les autres accusations, corruption, etc., le juge a estimé qu'il n'avait pas assez de preuves pour le condamner pour cela. Voilà. En revanche, la justice a estimé que pour l'association de malfaiteurs, notamment parce qu'il y avait eu des virements documentés, hein, l'association de malfaiteurs, elle, a été prouvée. C'est ce qu'a décidé la justice. Donc cette phrase « Je suis condamné sans que le tribunal puisse le prouver », elle est, si on s'en tient aux attendus du jugement, une affirmation fausse. Remettant en question le travail des juges d'instruction, il souligne que ceux-ci, faute d'avoir pu prouver un pacte de corruption, à la toute fin de l'enquête, ont ajouté une soi-disant association de malfaiteurs. Le tribunal, rappelle l'Humanité, a pourtant estimé que Sarkozy n'a pas pu ne pas connaître les démarches de ses proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, on se rappelle un petit peu de l'histoire, en Libye pour financer sa campagne présidentielle. Si ça vous intéresse, on en a parlé assez longuement vendredi dernier. Il s'agit... Qui parle là ? le secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats. Toujours ce moment-là, qui nous parle. Et qui dit, il s'agit d'un délit incriminant un groupement établi en vue d'une infraction, dans l'instruction, il y a les preuves de ce délit, et pour la peine de corruption qui, certes, n'a pas été retenue, la justice ne dit pas qu'il n'y a pas de preuves, mais qu'il n'y a pas assez de preuves pour le condamner, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je ne vais pas vous lire tout l'article. Voilà. En revanche, l'article parle de toutes les réactions, notamment à droite, pour condamner ce jugement. Quoi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, par exemple, hein, s'est questionné, y avait-il un risque pour l'ordre public, y avait-il un risque pour le pays? Je m'interroge. Gérard Larcher se dit, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de condamner Sarkozy, quoi? Donc là, on a donné la voix à Gérard Larcher. Donnons la voix maintenant à une députée socialiste qui s'appelle Colette Capdevielle, qui s'inquiète quand un ancien chef d'État s'en prend à la justice. Il porte atteinte à l'État de droit. Certains voyant un lien entre ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, seraient de sacrés coquins. Je vous lis un petit peu sur le sujet. Ah, Cyril, je me suis posé la même question, je n'ai pas la réponse pour Capdevielle. Salut Azramil. J'ai pas trop d'avis en vrai sur Blast, que je n'ai pas beaucoup consommé, Azramil. J'en aurais un, je te le donnerai en vrai. Emmanuel Macron va-t-il gracier Sarkozy, demande Loustic. C'est impossible à court terme, puisque pour que le chef d'État puisse gracier quelqu'un, il faut qu'il soit condamné définitivement. Or, l'appel que vont former les avocats de Sarkozy fait qu'en fait, cette condamnation, elle n'est pas définitive. Donc, aujourd'hui, à supposer que Macron souhaite gracier l'ancien président, il ne peut pas le faire. Il aurait fallu que les avocats de Sarkozy ne fassent pas appel. Donc là, ne t'embête pas avec ça, pour l'instant, c'est impossible. Ah bah, il aura sans doute du sursis, dit Dalle Rose. Alors non, le jugement est tombé. Il n'y a pas de sursis, il est condamné à passer par la case prison. Il ne restera peut-être pas 5 ans, mais il y a Dalla Rose qui a raté l'épisode de la semaine dernière. Il est condamné, il n'y a pas de sursis, c'est de la peine de prison ferme. Alors, il passera par la case prison, peut-être pas très très longtemps. Peut-être qu'il aura assez vite un bracelet électronique, quoi. Mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est la justice. Allez, enchaînons, parce que j'ai un milliard d'infos à vous lire ce matin. D'autant qu'on a beaucoup parlé de ça déjà vendredi dernier. Qu'est-ce que c'est? Ah bah TikTok, ça va vous intéresser. C'est la branche américaine de TikTok qui, voilà, sous la pression de Trump, va être vendue. À qui? Merci King Julian. Allez, c'est parti, 1h26. Allez, c'est vraiment un train d'enfer d'actualité ce matin. 1h26, c'est ça? Ok, let's go. Ok. Un train d'enfer. Alors. Tac. Et je vous mets la flèche. Ami de TikTok. En face de TikTok, c'est incroyable. Nous vivons dans... C'est Inception. Alors, TikTok, le grand méchant deal, nous dit Libé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Très jolie photo, un petit peu avec la DA TikTok de, vous l'avez reconnu, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Trump qui a annoncé la cession des activités américaines de TikTok, qui est une entreprise chinoise, vous le savez, à un consortium de fidèles. Ah, des proches de Trump a priori. Intéressant. Mais le président chinois pourrait faire monter les enchères De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, on va lire. Impuissante, l'Europe craint de faire les frais de cet accord. Souvent, alors un édito, je vous rappelle, c'est apprendre avec prudence. Un édito, c'est un article un peu particulier. Un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Voilà. Et de la même manière que je vous dis régulièrement les avis que j'exprime, parce que je ne cesse de vous donner mon avis sur les sujets, les avis que j'exprime sur l'actualité, ça vaut que dalle. Ce n'est que l'avis de Samuel Etienne, voilà, qui est l'illustration de son parcours, de ses idées, de ses valeurs, de ses rencontres, de ses lectures. Ça ne vaut rien. Voilà. On est là pour exprimer nos avis, nos opinions, mais vous pouvez la remettre en cause, la juger totalement incohérente et infondée. Voilà. C'est pas parce que je l'exprime ici, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, qu'elle a du sens et qu'elle est précieuse. Hein. Ben ici, on a Dove Alphon qui nous donne son avis là-dessus. Mais quand c'est bien fait, l'édito, non seulement il donne un avis, mais il résume aussi l'actu. Parce que pour donner son avis, encore faut-il expliquer à ses lecteurs l'actualité. Donc parfois, un bon édito, il résume en assez peu de lignes, en fait, une actu, parfois, qui prend des pages. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et Libération, en général, le fait plutôt bien, ça. Nébuleux, nous dit Dove Alphon. Que dit Dove Alphon, qui fait en général de très bons éditos dans Libé? Qui va acheter un réseau social en seconde main? Le vendeur n'est pas très commode. Donc ça, c'est la Chine. Le produit est considéré comme toxique. Pour ça, c'est TikTok. Le prix indiqué est étonnamment bas. Bizarre, cette histoire. Les termes sont particulièrement flous. Enfin, moi, je pensais que TikTok aux States, ça vaudrait des sous, mais bon. Mais jeudi, Trump a donc annoncé avoir signé un décret définissant les modalités de la cession des activités américaines de la plateforme TikTok, le réseau social le plus populaire au monde. Carlos dit « Le prix est bas, bizarre ». Oui, moi aussi, je trouve ça bizarre. Je suis comme toi. Assez mesquin sur le détail de ce deal inédit, le président américain a lâché deux infos qui ne font qu'entretenir le flou. L'acheteur sera un consortium d'investisseurs très sophistiqués. Autrement dit, écrit Libé, très proche de ses propres idées à lui. Et l'accord a été directement discuté entre Trump et Xi Jinping, le président chinois. La semaine dernière. Bon, pour l'instant, c'est un peu flou. Hein. Peut-être qu'en les prochains jours, on aura des précisions. 170 millions d'Américains utilisent régulièrement TikTok. Les services de renseignement occidentaux, comme les experts en santé mentale, ne cessent d'alerter sur ces dangers. C'est un sujet dont on parle régulièrement. Bon, je résume moi mon opinion sur le sujet. TikTok, c'est un outil. Ouais, on peut s'en servir bien ou mal. Après, comme tout outil, il faut qu'il soit encadré. S'il y a un problème de modération sur TikTok, s'il y a un problème d'exposition des plus jeunes à TikTok à des contenus auxquels ils ne devraient pas avoir accès, il faut modérer ça, il faut encadrer, ça n'est pas possible. Mais, continuons. Le premier but des autorités américaines est donc de contrôler les contenus diffusés sur le territoire américain et d'interdire la migration des données de l'utilisateur vers la Chine. Parce que ça fait longtemps que les autorités américaines disent « Dis donc, les autorités perso, enfin les infos perso sur les utilisateurs américains détenus par une société chinoise, quand vous connaissez la tension des relations entre les États-Unis et la Chine, c'est vrai que du côté de Washington, ça les ennuie un peu, quoi. » Aussi nébuleux soit-il, cet accord entre les deux géants illustre d'une manière cruelle l'impuissance européenne face aux enjeux. Voilà. Dans un entretien à Libé, l'initiateur de la commission d'enquête sur l'influence de TikTok en France, un sénateur qui s'appelle Claude Malhuret, ne mâche pas ses mots contre TikTok. Les plateformes comme TikTok sont, selon lui, responsables aujourd'hui de l'ingouvernabilité des démocraties et de la montée des extrêmes à droite et à gauche, qui savent très bien s'en servir. Attends, je relis la phrase. Moi, je veux bien qu'on reconnaisse énormément de torts aux réseaux sociaux, mais les plateformes comme TikTok, admettons tous les réseaux sociaux là-dedans, sont responsables aujourd'hui de l'ingouvernabilité des démocraties et de la montée des extrêmes à droite et à gauche, raccourci façon Mario Kart d'une puissance. Alors, ok, donc ça voudrait dire que les élus, les responsables politiques, les institutions, les corps intermédiaires, les citoyens eux-mêmes ne seraient responsables de rien. Hein. L'ingouvernabilité des démocraties, c'est pas la faute des gouvernants, c'est pas la faute des électeurs du tout, non. C'est la faute des réseaux sociaux. La montée des extrêmes, si on prend que l'extrême droite en France, je pense qu'elle a commencé à monter en France dans un pays qui, à l'époque, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bon, je trouve que le raccourci est assez extrême, quoi. Donc, partiellement vrai peut-être, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais alors l'affirmation est quand même radicale, quoi. Prêt à une bataille, TikTok a attiré l'an dernier l'actionnaire de la licorne française Mistral, Xavier Niel, à son conseil d'administration. Quelques mois plus tard, le réseau chinois concéda avoir menti sur l'utilisation des données et de ses utilisateurs européens et s'acquittait tranquillement d'une amende de 100, 530 millions d'euros. Voilà. Pas très sophistiqué, aurait jugé Trump. Bon. Que l'outil soit problématique et qu'il pose des problèmes et qu'il faille l'encadrer, c'est une chose. Après, il y a des raccourcis de fou, quoi. Alors, ça, c'est l'édito. Mais maintenant, on a un gros dossier dans Libération qui explique les coulisses de cet accord. Donc, je vais essayer d'aller au plus vite, quoi. C'est pas entièrement faux. Ah, mais Kincaid, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est radical et c'est comme penser que c'est un peu un résumé de fou. C'est pas parce que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans la polarisation des sociétés, dans la montée des extrêmes, dans la diffusion des fausses informations auprès des citoyens. Tout ça, c'est vrai. Mais de dire que la montée des extrêmes, comme le dit ce monsieur, hein, je vous relis la phrase, les plateformes comme TikTok sont responsables aujourd'hui de l'ingouvernabilité des démocraties, de la montée des extrêmes à droite et à gauche, dire que c'est le seul moteur, la seule explication, c'est trop court. Tout argument, comment dire, excessif, ben, en fait, est démonétisé, en fait. Il perd en intelligence. Hein. Il y a bien d'autres raisons. Il n'a pas dit le seul. Les plateformes comme TikTok sont responsables de l'ingouvernabilité des démocraties, de la montée des extrêmes. Alors, à moins qu'il manque une partie de la phrase, il le dit. Hein. Mais peut-être que cette phrase a été tronquée. Parce que ce n'est qu'une citation. Je suis sûr que si on avait ce monsieur face à nous, il nous dirait « Non, non, ben, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. » On n'a pas cité toute la phrase. C'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce deal ? Alors, Trump, il dit « Tout sera géré par des Américains. » Jeudi, il a annoncé fièrement qu'il venait de signer un décret définissant les contours de la cession des activités aux States de TikTok à qui ? À un consortium de sociétés américaines. Donc, a priori, si le deal est signé, TikTok aux States, ce sera géré par des Américains. Voilà. ByteDance, la maison mère chinoise du réseau social TikTok, très prisée des jeunes, blablabla, se voit expulsée de sa filiale, dont elle ne conservera qu'une participation minoritaire, 20% du capital. Donc, la Chine garderait 20% de la filiale. Ok. En piste pour acheter la branche américaine de TikTok, un carteron d'investisseurs très sophistiqués d'après Trump, moi j'aimerais bien savoir qui il y a derrière, parce que, hein, et surtout très riche et fidèle soutien, Michael Dell, fondateur du groupe d'ordinateurs Dell, okay. Le magnat des médias Rupert Murdoch, propriétaire de Fox News, okay. Larry Ellison, le fondateur du géant technologique Oracle, et ami de Trump, ok. Selon plusieurs médias, le fonds d'investissement Silver Lake Partners et Andreessen Horowitz seraient également de la partie. Pour 14 milliards de dollars. Ça, c'est la somme. Ok. Cerise sur le gâteau, l'État américain empochera au passage une méga commission. Bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Les États-Unis ont deux préoccupations majeures. Éviter que les données personnelles et sensibles des citoyens américains soient transférées vers la Chine. On peut le comprendre, ça. Hein? Et empêcher la manipulation de l'algorithme pour mettre en avant ou censurer des contenus. Ça aussi, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est des préoccupations qu'on peut comprendre, quoi. D'ailleurs, Libé rappelle que c'est l'administration Biden qui, en 2024, a fait voter une loi à double détente. Soit TikTok cède ses affaires à des boîtes américaines, soit il sera banni des États-Unis. Trump, d'abord en 2025, de retour à la Maison-Blanche, a temporisé là-dessus. Et en fait, le projet, c'est un projet de l'administration Biden à la base. Mais manifestement, là, Trump enchaîne. Il n'est plus à la télé, lui, ils amusent. Salut Isa, bonne journée à toi. Bon, je suis pas sûr que Isa Muse parle avec cette voix-là, mais j'avais envie de la faire parler comme ça. Je ne vous lis pas tout le dossier, je vais à l'essentiel. Une chose est sûre, Trump confie le précieux réseau social entre des mains amies. Oracle récupère le joyau de la couronne, le puissant algorithme capable de rendre captif l'utilisateur et d'entretenir son engagement. Ah ouais, donc quelqu'un me disait tout à l'heure que Oracle, c'était un peu le grand gagnant de cette histoire. Oui, tu n'as pas tort, a priori. T'arranges quitte l'Athénée. Pardon, Isa, je suis obligé de prendre cette voix-là parce que tu enchaînes. Voilà. Je continuerai à parler avec cette voix à chaque fois que je te lirai. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à rester avec nous. Tu as même le replay sur Twitch, YouTube et en podcast. Si tu veux réécouter cette séquence pour la faire écouter à ta famille, à tes amis, n'hésite pas. C'est gratuit. Alors, est-ce que ce deal il est signé ou pas? Est-ce que ce deal est signé? Rien n'est moins sûr. Si l'affaire semble réglée pour Trump, vous savez que Trump, parfois, il va un peu vite en besogne, puisque Trump affirme que Xi Jinping lui a donné son feu vert lors d'un coup de fil, la réserve reste pourtant de mise du côté chinois. Est-ce que ce truc est vraiment signé? Seule réaction venue de Pékin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réclamé un environnement commercial ouvert, équitable, non discriminatoire pour les entreprises chinoises investissant aux États-Unis. Bon, à suivre. Dans ce feuilleton géopolitique, et je pense qu'on va être tous d'accord avec ça, il serait surprenant que la Chine accepte de se faire tordre le bras sans contrepartie. Xi Jinping a peut-être fait un geste sur TikTok, mais il a sans doute adopté une position plus ferme sur d'autres points. Ce qui laisse augurer que le bras de fer entre les deux superpuissances n'est peut-être pas terminé. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Ok. Il y a quand même un monde où il y a un deal où Pékin a dit « Ok, on vous cède la branche américaine de TikTok. » Ok. De toute façon, entre ces deux-là, c'est qu'une sorte de rapport de force. Merci Raven Club. Merci Yanouf, merci Sabos, merci Sylvia. Merci mamie Colette. En fait, je me régale, tu sais, ici. Au contraire, moi, ça m'amuse beaucoup. Ça crée beaucoup de bonne humeur dans ma tête. Je me suis habitué, ça fait 5 ans que je fais ça, tu sais. Non, parce que mamie Colette écrit, c'est trop mignon. J'espère que les zinzins du chat vont pas te rendre aigri. Franchement, t'es une... Alors merci, je ne vais pas sur les compliments parce que après j'ai le melon, déjà que j'ai un melon de ouf qui m'est grave de bonne humeur, merci pour ton taf vraiment. Non pas du tout, moi ça fait 5 ans qu'on fait ça, franchement je me régale moi. Moi plus il y a des... Franchement à 99,99% vous exprimez de façon tout à fait parfaite dans le chat, voilà, on peut ne pas être d'accord ensemble mais vous l'exprimez de façon un petit peu, on va dire, contenue quoi, encadrée quoi. Hein, on n'est pas au café du marché bourré à 18h le vendredi soir, quoi. Tu vois, chacun fait des efforts. Puis parfois, il y a des fous du bus qui sont un petit peu radicaux dans leur manière de s'exprimer. Voilà. Et ben, c'est du content. Bon, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Moi, je trouve que c'est un peu de spectacle, un peu de sourire. En vérité, c'est pas désagréable. Voilà. Ça fait rire tout le monde. Il en faut. Moi, je dis il en faut. Hein. Dans un monde anxiogène, avec des informations dont je me fais l'écho tous les matins qui sont pas forcément toujours très très souriantes, des gens qui viennent créer un peu de divertissement, moi je trouve ça plutôt pertinent. Bah, ça, j'aime bien, moi. Il y a un monde où je les passe VIP, même. Ouais. Moi je dis, non seulement je me suis habitué, mais même c'est ma petite gourmandise. C'est ma petite gourmandise, mon petit plaisir. On va en lire un. On s'en lit un petit, là, j'en monte dans le chat. Non, il n'y en a même plus, là, c'est même pas drôle, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop intelligent. Putain, il n'y a même plus de dinguerie, là, ça y est. Salut Sam, question pour les éditions journalières, elles paraissent en même temps que les lives, t'as une routine de lecture quotidienne. Oui, Guillaume, tout est quotidien ici. Les journaux que je lis sont des journaux quotidiens, hein, que vous voyez ici. Bon, moi, je pourrais lire plein d'autres médias, hein, mais c'est ceux que j'ai choisis parce que je les aime bien. Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. On fait une revue presse quotidienne du lundi au vendredi. C'est en live sur TikTok, c'est en live sur Twitch, c'est en replay sur YouTube et c'est en podcast désormais aussi. Voilà, tout ça, c'est quotidien. Hop, bon, on va suivre cette histoire de TikTok là. Bon, Il y a un truc, c'est bizarre, c'est le montant qui est pas très élevé là. Bon, c'est un peu mystérieux pour l'instant, on suivra ça dans les prochains jours. De quoi je vais vous parler maintenant? De cette histoire d'obsolescence programmée du côté de Microsoft avec la fin de Windows 10 et le gâchis économique dénoncé par l'humanité. Je sais pas si c'est vrai, on va essayer de comprendre cette histoire. Voilà, on est à 1h43, je vous mets ça. Obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 1h43. C'est 1h43. Voilà. Hop. Là, je vous mets la petite flèche, comme ça les gens qui arrivent savent de quoi on a parlé avant, de quoi on va parler après. Et comme ça, en replay, vous trouvez ça assez vite fait, assez rapidement aussi. Alors, je vous fais la même chose de TikTok. Je vous mets la petite flèche. Et une petite flèche. Et une petite flèche. Voilà. Là. Windows. Alors je lis assez vite les journaux, mais alors je suis pas très rapide parfois sur les petites flèches. Hein. Voilà. Windows. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai dû changer mon PC, me dit Thyrion, et ensuite j'ai appris que les mises à jour Windows 10 continuaient une année supplémentaire. Ouais, uniquement pour les particuliers européens. Vous allez voir ça. 400 millions d'ordinateurs au rebut. Alors l'humanité est un peu en colère. L'humanité en fait même ça une, cette histoire. La multinationale s'apprête à rendre obsolète près d'un quart des équipements informatiques de la planète. Aberration économique doublée d'un scandale environnemental. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez l'air très au courant, en tout cas, parce que je vois beaucoup de commentaires déjà. Fin de Windows 10, un gâchis économique et écologique. Près d'un quart des ordinateurs de la planète vont devenir progressivement obsolètes à partir du 15 octobre, c'est donc 15 jours. Microsoft ne veut plus mettre à jour son précédent système d'exploitation, donc Windows 10, c'est ça? Même si la multinationale vient d'accorder un sursis pour les seuls particuliers européens. Le 15 octobre prochain, 400 millions d'ordinateurs sous le système d'exploitation Windows 10 deviendront progressivement obsolètes. Pas d'un coup, hein, car incompatibles avec Windows 11. Ils ne cesseront pas de fonctionner du jour au lendemain, hein, bien sûr, mais ils ne pourront plus être mis à jour. Petit à petit, c'est comme de temps en temps, vous utilisez un logiciel ou vous jouez à un jeu, puis un jour, vous apprenez que la société ne veut plus le mettre à jour, et donc progressivement, en fait, vous savez que le truc va s'arrêter, quoi. Petit à petit, les logiciels cesseront de marcher, le terminal deviendra plus vulnérable au piratage, ça c'est un petit peu embêtant. Une seule raison à cela, Microsoft a décidé unilatéralement de ne plus assurer le suivi de ce système d'exploitation. Certains des 220 millions de PC sous la licence familiale ont obtenu en fin de semaine dernière, c'est vrai, un sursis. Il y aurait une opportunité pour les consommateurs européens de se connecter avec un compte Microsoft pour prolonger la licence d'un an, mais ça n'est pas clair. On ne comprend pas pourquoi c'est pas communiqué auprès du grand public. Au contraire, l'entreprise continue de promouvoir les nouveaux PC, dit Julie Caillard, qui est chargée de plaidoyer chez Halt à l'obsolescence programmée, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. L'association, hop, avait lancé une pétition contre ce qu'elle appelle un hold-up qui menace la sécurité, le climat, le pouvoir d'achat. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, effectivement, Microsoft, interrogé par l'UMA, a promis une campagne de communication début octobre pour dire aux citoyens, aux particuliers de l'espace européen, et uniquement pour eux, qu'ils pourront connecter leur PC avec un compte Microsoft, MSA, je ne sais pas si ça vous parle, et rester connectés pour recevoir gratuitement les mises à jour de sécurité. Si vous ne vous connectez pas dans une période de 60 jours, les mises à jour seront interrompus et vous devez vous réinscrire en vous reconnectant avec le même MSA. Ça vous parle? C'est précis? Moi, je comprends rien. MSA, Microsoft Account. Ok, d'accord. C'est dans l'humanité. Alors, Kapatsuki estime que le titre est un peu trop sensationnel, et je comprends ce que tu veux dire, parce que Kapatsuki nous dit « Les PC vont pas devenir obsolètes, ils sont juste incompatibles avec Windows 11. Les gens peuvent utiliser d'autres OS, comme Linux, ou conserver leur Windows actuel. » Ouais, mais en termes de sécurité, j'ai l'impression que ça pose des problèmes, quand même. Si tu restes sur Windows d'avant. Hein, tout le monde n'est pas prêt à passer sur un autre OS, quoi. Aussi. Hein. Pensez à Papy Sam. Hein, ah, sans mise à jour, dit Grom, ton ordi meurt quand même petit à petit, quoi. Tu vois, Teddy confirme, conserver Windows sans mise à jour, c'est effectivement un petit peu risqué niveau sécurité. Ha. Evie. Evie. Comme le dit que McKinney's back, il n'a pas tort, du moment qu'on peut se buter sur Edge of War, c'est le principal. J'avoue, c'est un argument. Il y a Prunop qui dit qu'il faut arrêter que la menace du piratage, c'est surtout une question d'hygiène informatique. Tout le monde n'a pas son PC exposé directement à Internet. Attends, dans ta phrase, tout le monde n'a pas son PC exposé directement à Internet. Tu dis qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas son PC connecté à Internet? Attends, moi, je suis pas très à la page, mais. Il y a encore beaucoup de gens qui ont un PC qui n'est pas connecté à Internet. Mais ils font quoi avec? Excel? Voilà, pardon, peut-être, hein, j'ai pas l'info. Ah, exposé, il est derrière une box. Hein, directement, c'est-à-dire. Ah, je suis perdu là. C'est quand t'as pas de firewall. Par l'intranet, c'est suffisant dans beaucoup de boîtes. Ok, d'accord. Sauf qu'on va voir dans le dossier, en fait, que la plupart des boîtes, et notamment les administrations, elles vont payer. Elles vont payer parce qu'elles vont pas dire, elles vont pas dire à leurs salariés, bon les gars, on va vous laisser le vieux truc, ça ira bien là. La plupart des boîtes, en fait, elles vont payer. C'est ce qui est décrit un peu plus tard. Donc, techniquement, c'est pas complètement faux ce que vous dites, c'est totalement juste. Mais les boîtes, elles vont payer. Voilà. Et les hôpitaux, quelqu'un me disait, ah, de toute façon, à votre avis, les hôpitaux, ça tourne avec quoi? Bah, les hôpitaux, ils ont déjà décidé qu'ils allaient passer à Windows 11. Et donc, ça va payer. Et ça a un coût. Et ça a un coût. Lisons. Ce sursis accordé aux particuliers européens ne règle pas le fond du problème, d'autant que les PC sous licence professionnelle ne sont pas concernés. Pour l'association dont je parle, hop là, halte à l'obsolescence programmée, il s'agit en fait d'une véritable taxe. Car soit le consommateur remplace son équipement, soit il doit s'acquitter de 26 euros hors taxe pour les particuliers qui ont l'édition familiale de Windows 10. Et de 52 euros hors taxe pour l'entreprise. Ce tarif double chaque année jusqu'en 2028, fin définitive de toute mise à jour. Sur l'année fiscale 2024, Microsoft avait battu son record de bénéfices, dépassant la barre symbolique des 100 milliards de dollars, et veut visiblement faire mieux, écrit Luma. Dans le même temps, un nouveau plan de licenciement est en cours chez le géant de l'informatique. Pas moins de 9000 postes dans le monde seraient concernés. J'ai du mal lire des trucs parce que c'est un article qui me dit qu'ils ont fait 100 milliards de bénéfices. De bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires. En 2024, et ils ont un plan social de 9000 personnes. Non, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper, hein. Ah bah non. Bon, ok, d'accord. Bon, ok. En France. Parlons de chiffres. 22% des ordinateurs sont menacés par cette obsolescence logicielle liée à la fin de Windows 10. Ça inclut ceux d'entreprises, d'infrastructures critiques, hôpitaux, voilà, écoles, mairies, bibliothèques, associations. Pour nous, c'est un vrai sujet. Tiens, c'est la mairie de Paris qui parle. Sur les 40 000 ordinateurs de la ville de Paris, 14 000 postes ne sont pas compatibles avec Windows 11. C'est un tiers du parc. Nous avons étudié la chose pour faire au moins mauvais, si je puis dire. 4000 ordinateurs vont être remplacés. Et pour les 10 000 qui restent, nous allons payer la licence. Alors peut-être que vous pensez que c'est pas ce qu'aurait dû faire la mairie de Paris, mais ça va leur coûter, quoi. Et au final, si vous habitez Paris, ça va vous coûter aussi. Voilà, l'addition immédiate est salée, et ça n'est qu'un sursis, dit l'élu local. Alors, c'est vrai pour les départements, pour les hôpitaux, etc. Ah, la police aussi. Selon le Canard enchaîné, pas moins de 18 000 ordinateurs appartenant à la Direction générale de la police et 4 846 postes de travail de plus à la préfecture de police de Paris vont également se retrouver au rebut pour un coût estimé à 15 millions d'euros. Et pas question pour ces organisations d'y couper, parce que certains pourraient estimer que c'est pas ça qu'il faut faire. Garder un système obsolète reviendrait à s'exposer à des risques accrus en matière de sécurité informatique. Bon, pour le coup, pour des PC de la police, oui, on peut comprendre qu'ils soient un peu inquiets. Ouais. Déjà cette année, en France, des cyberattaques d'ampleur ont touché l'université de Rennes ou des hôpitaux, vous le savez, et agences de santé, par exemple Normandie et Hauts-de-France. Prendre le risque d'être plus vulnérable n'est donc pas une option. Il faut avoir conscience qu'on manipule des données sur les usagers, leurs revenus, leur famille, leur adresse, leur usage. Pour ces raisons, nous savons que nous sommes des cibles pour les pirates. Nous estimons que la fin de Windows 10 pourrait engendrer 725 000 tonnes de déchets électroniques. Ah, pour ça, par calcul, l'association de consommateurs américaine PIRG, P-I-R-G. Ok, bon, ça c'est les arguments de notamment des associations. Je vous lis maintenant, parce que peut-être que c'est pas tout à fait carré ça, je vous lis. J'ai quoi, moi? J'ai quoi comme Windows, moi? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je trouve ça, moi? Ouais, comment je sais quel Windows j'ai, les gars? Comment tu sais que j'ai 11, Sugar? Comment vous savez que j'ai 11? Putain, vous savez, moi, je sais pas. C'est quoi, l'histoire? Tu as la barre de tâches au centre? Ouais. Et donc, 11. C'est incroyable, c'est incroyable. Et pourquoi j'ai pas 12? Pourquoi j'ai pas 13? Ok, vous êtes incroyable. D'accord, bon, j'ai 11, ok, très bien. Très bien. Alors, je vous lis un petit peu sur le sujet, là. Ah, ça fait 4 ans que Windows 11 est sorti, 10 ans que Windows 10 est sorti, dit Mr. Captain, ça aurait pu être mieux planifié à l'avance par les départements, par les hôpitaux, quoi. Teddy estime, hein, les gars, passez à Linux, quoi. Alors, Fru répond, pour ceux qui se posent la question de Linux, je vous invite à venir faire la gestion du changement dans une administration. Alors, MMG me dit que la gendarmerie a délaissé Microsoft pour Linux, donc. C'est vrai, ça? Full les gendarmes, c'est Linux, full. Le problème, c'est pas tant de passer à Linux, dit Ocario, c'est que les logiciels utilisés puissent tourner sous Linux. Je veux bien passer à Linux, me dit Akita, mais pour jouer à BF6 et CS2, on fait comment? C'est bien le problème. Linux, plus de LOL, plus de Valo, et pour tous les jeux qui ont un anti-cheat, me dit SketchUp. Ah bah les gars, moi, ça va pas être possible pour moi. Intéressant comme sujet. Je bosse à l'hôpital en réanimation, me dit Assa Predo, les PC sont passés sur Windows 10 il y a seulement 3-4 ans. Les logiciels sont pas adaptés pour Windows 11, on va sûrement rester sur le 10 quelques années dangereuses. Aïe. Eh oui, il y a. Ouais. Ça, c'est la réalité. Non, Zoé, toujours pas Madagascar, je surveille. Ok, intéressant en tout cas. Et puis je vois que ça provoque beaucoup de commentaires. Et y a Patriot qui me dit, je reste sur Windows 7, le meilleur de tous les temps. Ok, d'accord. Ok, Patriot. Ça fonctionne encore, demande Nolan. Je me demande si c'est pas une vanne quand même de Patriot, je suis pas sûr. Bienvenue, Kayu Sushi. Bon, je surveille l'heure, ça va, on est dans les temps. Bon, je crois que j'ai 1000 autres articles à vous lire. On va en Ukraine. Ça fonctionne toujours? Windows 7? Ok. Windows 10, traitement de texte? Impeccable. Ok, d'accord. Bon, il y a un débat dans le chat comme quoi XP c'est mieux. Ok. Ok, let's go. On va sur la guerre en Ukraine. Voilà. Ça ressemble à la science-fiction, mais c'est pas la science-fiction. Il y a des. C'est assez impressionnant. On est sur du 2 heures. 2 heures de revue de presse. J'accélère un petit peu. Hop. Et je vous mets. Est-ce que je vous ai mis. C'est bon. TikTok, je vous mets la petite flèche, comme ça, vous savez, si vous arrivez en cours de route où on en est, si j'arrive à ouvrir le sommaire, j'ai réussi, quelle machine? Voilà, on passe à l'Ukraine. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit sur l'Ukraine. La guerre des robots, titre, je crois à la croix. Ouais, c'est la croix. Let's go. De quoi s'agit-il? La guerre des robots, en Ukraine. Le recours massif à des drones aériens, bon, ça vous le savez bien sûr, à des drones terrestres aussi. Influe sur la conduite du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Pendant ce temps, on est en train de se demander si Trump n'est pas en train de changer d'avis vis-à-vis de ce conflit également, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. L'armée de terre française observe de près ces changements. De quoi s'agit-il? En Ukraine, la révolution des drones terrestres. En raison de la prolifération des drones aériens, les forces ukrainiennes recourent de plus en plus aux drones terrestres. Dans la région de Kharkiv, les robots ravitaillent les positions avancées. De son côté, la France travaille à se préparer aux prochaines avancées technologiques. Il y a des scènes décrites du conflit ukrainien qui sont assez surréalistes. Voilà. Des soldats marchent dans l'obscurité, gilet pare-balles sur le dos, casque sur la tête, barda sur les épaules. La scène est filmée par la caméra d'un robot piloté depuis un sous-sol situé à quelques kilomètres. Manette en main, jeune opérateur enfoncé dans un fauteuil guide l'engin. En face de lui, un ordinateur et un écran accroché au mur, ainsi qu'une canette de boisson énergisante posée sur le bureau. La mission va durer plusieurs heures. Dans ce secteur au nord de Kharkiv, comme ailleurs sur le front, les forces ukrainiennes emploient de plus en plus de drones terrestres. À chenille ou sur roue, Windows 10 ou 11 d'ailleurs? Je pose la question, j'ouvre le débat. À chenille ou sur roue, ils servent d'abord à ravitailler les positions avancées. Hein? Voilà, les soldats ont installé les robots sur des remorques tirées par des pick-up, ont filé en direction du front, nouvelle pause pour décharger en endroit discret, voilà, et on fournit les soldats sur le front en munitions, en eau, en nourriture, en friandises, un des petits plaisirs, explique un technicien. En lisière d'un hameau, les drones sont descendus de leur remorque, on parle de drones terrestres. Puis les pilotes en prennent le contrôle depuis leur cave et entament leur long périple. Un peu comme les modos de cette chaîne aussi. Sur le premier segment de l'itinéraire, les appareils sont protégés par des filets anti-drones accrochés au-dessus de la route. Voilà. C'est à cause de la prolifération des drones bombardiers ou kamikazes que la logistique de l'armée ukrainienne recourt à ces innovations technologiques. Depuis un peu plus d'un an, la nature du front a profondément changé. Si l'artillerie, les bombes aériennes et les combats d'infanterie n'ont pas disparu, la grande majorité des dommages, cette phrase est incroyable, la grande majorité des dommages sont aujourd'hui infligés par des drones aériens capables de suivre les cibles en mouvement. Les estimations varient en fonction des secteurs et des cibles, mais les drones causeraient autour de 70% des dégâts actuels dans ce conflit. Les blindés lents et visibles sont particulièrement vulnérables. 95% des chars détruits le sont aujourd'hui par les drones. 95% des chars détruits dans ce conflit le seraient par les drones. Le front est ainsi devenu une gigantesque bande poreuse d'une vingtaine de kilomètres de large dans laquelle il est extraordinairement difficile de circuler sans être repéré et ciblé. À la place de lignes de défense continue, le champ de bataille est délimité par un archipel de positions. C'est fou. Voilà. Alors là, l'article rappelle que pour l'armée ukrainienne, l'un des défis, c'est le nombre de soldats, hein, en sous-nombre par rapport aux forces russes. Contrainte de protéger au mieux sa ressource la plus précieuse, donc l'humain dans un environnement devenu terriblement périlleux, l'Ukraine s'est naturellement tournée vers la technologie. Quoi de mieux que des robots pour assurer des tâches subalternes dangereuses? Hein, les drones terrestres diminuent les risques pour la vie humaine. Avant, on utilisait des voitures, mais c'était des cibles faciles. Beaucoup de gars sont morts en ravitaillant les positions. Si les Russes détruisent un drone terrestre, c'est seulement de l'argent et c'est pas la vie d'un soldat. C'est fou. Attendez, c'est pas fini, hein, parce que j'ai parcouru l'article ce matin, il y a d'autres choses intéressantes. Voilà, on parle du coût de ces drones terrestres, la vitesse avoisine les 10 à 15 km/h, ce qui est plutôt pas mal en vrai, avec une autonomie d'une trentaine de kilomètres pour un coût démarrant à 7000 euros. L'avantage de ces véhicules est leur discrétion, plus petits, ils sont faciles à cacher sous des arbres. Après les drones aériens, est-ce qu'un nouveau bouleversement du champ de bataille est-il en cours? Voilà, c'est ce que pense Andriy Biletsky, qui est commandant du 3e corps d'armée ukrainienne. Nous sommes à l'orée d'une révolution. Les drones terrestres semblent capables de remplacer l'homme, dit-il. L'armée russe y met aussi, bien sûr, depuis cet été, et déploie des drones terrestres sur le front. En plus de la logistique, pour l'instant, on parle du ravitaillement des soldats. Des expérimentations sont en cours pour d'autres types de missions, et on s'en doute. Et là, on rentre dans ce qui ressemble de plus en plus à la science-fiction, mais qui bientôt ne le sera plus. Minage et déminage, construction de fortifications, évacuation des blessés. Pour ces tâches, les blessés sont installés sur les robots, dont certains sont équipés de ceintures pour les maintenir. Éprouvant pour les pilotes qui ont charge d'âme, mais ne peuvent pas faire grand-chose en cas d'attaque. Dans un coin d'un garage ukrainien, là, un drone a une apparence un peu différente. Surmonté d'un bras en métal, il peut porter un canon. Certains sont maintenant armés et capables d'attaquer. Le groupe de reste en a déjà employé. Ça crée un choc en face quand il voit arriver ces énormes drones avec des mitrailleuses. C'est terrifiant, confie l'un des opérateurs. Voilà. Et on a un article sur le fait que la France s'intéresse à ça, de plus en plus à la question des drones. Ou pour l'utiliser, ou pour s'en préserver, s'en protéger, bien sûr. Intéressant. Je vous lis. De rien, Gareth Zer, bienvenue. Donc ce conflit entre l'Ukraine et la Russie là préfigure, enfin annonce peut-être des changements dans la manière dont les guerres vont se mener, quoi. Il y a Chaton du désert qui écrit, je trouve ça horrible, les drones, les chances de survie ont l'air très faibles à partir du moment où tu es repéré, aucun moyen de se défendre, de se protéger, tu es la pitié de l'opérateur derrière qui, je l'ai vu dans des vidéos, s'amuse parfois à faire durer la chasse avant de te tuer. Bonjour, Raziel Frost. Lazareth estime que l'Europe est en retard d'une guerre pour l'instant. Là, pour le coup, tu parles de l'Union européenne. Les projets d'avions et de tanks nouvelle génération en partenariat France, Allemagne, Italie, autres, semblent presque anachroniques par rapport à ce qu'on décrit là. Qui m'écrit de bon matin? Putain, j'ai oublié de répondre à ce message, moi. Ah ouais, j'ai pas répondu du tout, moi. Un SMS du 10 septembre. Je suis trop de... On me propose trop de trucs sympas, je réponds pas aux gens. Victor, si jamais t'es sur le live, désolé, j'ai raté. Fais gaffe à ta réunion. Ça va, 13h, ça va. Merci beaucoup. C'est 13h la réunion. Mais faut, je vous laisserai à 45, quoi. Histoire de tout bien préparer. Je me suis rendu compte que quand je lançais trop tard, après, je n'avais rien préparé. Dommage que ce soit remonté avec Bailan et Nico. J'aurais adoré. Mais ça veut dire que j'aurais pas pu faire la vue de presse, par exemple. Tu manges pas le midi? Ben non, je mangerai après. C'est adorable. Il faut que tu te clones. Faut que je me drone, même, peut-être. Bon, à lire dans la croix. Non, non, on est bien, en plus il nous reste deux articles. Non, on est large. Voilà. Pardon d'avoir un tout petit peu d'ailleurs ce matin speedrunné l'actu. En général, je prends un peu plus de temps. J'espère que je vous lis suffisamment le chat. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Là, ce matin, j'avais beaucoup beaucoup d'actu. On va passer à justement une série qui arrive sur Canal+. Moi, je vous parle pas beaucoup de télévision, mais de temps en temps, la presse parle d'un film. D'une émission, d'une série qui arrive et on dit du bien et je me dis que ça peut être intéressant. Et donc là, on a une série qui arrive sur Canal+ qui s'appelle Les Sentinelles et qui nous parle de guerre et de tech, justement. Bravo Viralium pour l'alternance, c'est tellement difficile à trouver actuellement une alternance, GG à toi. Hop, je vous mets ça sur TikTok. Si j'arrive au vol sommaire. Alors, on est où là? Les Sentinelles, ça s'appelle Les Sentinelles, je crois. C'est sûr, c'est français, c'est français. C'est français. J'ai pas mis l'horaire, je suis débile. 2h10. Voilà. C'est bon. Let's go. La Grande Guerre version Robocop. Vous voyez, on n'est pas très loin de notre sujet précédent. Bon, évidemment, ça, cette fois, c'est de la fiction. Adapté de la BD de Xavier Dorisson, j'espère que je prononce bien, et Enrique Breccia, on m'a dit que c'était une vieille bande dessinée. Cette série rétro-futuriste sur des soldats au pouvoir augmenté pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, propose un univers singulier, une première saison prometteuse. Vous êtes plusieurs à m'interroger sur Madagascar. Alors, moi, ça fait un ou deux jours que je suis en recherche d'articles dans les journaux que je lis. Si je n'en trouve pas demain sur Madagascar, j'irai en trouver. N'hésitez pas à me le rappeler, parce que là, c'est... Vous m'en parlez, pour l'instant, je n'ai pas d'article à vous proposer. Et si secrètement la Première Guerre mondiale avait donné naissance à des super soldats dotés de pouvoirs surhumains, bien avant que l'usage des amphétamines ne se généralise durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le point de départ imaginé par Xavier Dorisson et Enrique Breccia en 2009, dans cette BD. Oui, quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est une vieille BD. 2009, ok, j'entends. 2009, donc 16 ans. Ok. Confiée au scénariste Guillaume Le Mans et au réalisateur Thierry Poirot, cette série à grand spectacle affiche une esthétique inquiétante. On ira voir la bande-annonce si vous voulez. C'est pas le scénario de Captain America, les soldats surhumains de la guerre mondiale? Bah oui, Old Linux. T'as raison. Cette série à grand spectacle affiche une esthétique inquiétante comme l'époque entre les ruelles sombres de Paris et ses cabarets peuplés de créatures étranges, un front en pleine débâcle, d'ailleurs de fin du monde, un labo militaire ultra secret où de nouvelles drogues sont testées sur des cobayes humains. 2009, c'était pas il y a 16 ans? Si, je crois. Hein. Et je sais, on ne se voit pas vieillir, hein. Je sais les amis. Autant de décors très graphiques qui confèrent à la série une identité visuelle singulière. Mélangeant les genres, les Sentinelles, c'est le nom de la série, je ne sais pas si vous avez Canal, navigue entre le drame historique réaliste, le fantastique, un brin d'espionnage. Moi, je l'ai pas Canal. Donc, on commence à regarder déjà ou pas? Et le film de super-héros façon Batman ou Robocop, revisité à la sauce rétro-futuriste. La BD est avant tout un récit de guerre avec beaucoup de combats. On a revu tout l'univers en y intégrant notamment une dimension mystique, en y renforçant les personnages féminins, dit le showrunner. Quelqu'un a vu ou pas? Au cœur du récit, Gabriel Ferraud est un jeune soldat très grièvement blessé au front en 1915, à qui on propose de recevoir un sérum aussi puissant que dangereux, susceptible de restaurer et même d'augmenter ses capacités ou de le tuer. Dans l'espoir de revoir sa femme et son nouveau-né, c'est mignon comme histoire. Il accepte le traitement et survit. Rétabli mais officiellement déclaré mort, il doit rejoindre une unité d'élite baptisée les Sentinelles. Les soldats, anarchés comme des cyborgs de métal, voient leur pouvoir décuplé dès qu'ils inhalent le produit miracle. Ça commence ce soir? Ça commence ce soir. En vrai, ça a l'air pas mal, hein. L'article dit que c'est plutôt OK, que c'est une belle production. Vous savez quoi? On va aller voir le... On va aller voir le trailer. Donc, bande-annonce. Les Sentinelles. Alors, normalement, je vous ai... Donc là, c'est... Bah, voilà, on a... Bon, c'est une série française. Paris sur les meilleures cotes. Ça, c'est de la pub, ça. TikTok, je vous ai créé une scène aussi. Normalement, vous devriez voir aussi la bande-annonce. Dites-moi si ça marche bien. Je vous mets ça. Pour ceux qui ont My Canal, c'est disponible tout de suite, me dit Camille. Bye, 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 bye. Et on l'a dans quelques secondes. Bougez pas. Toc, toc, ok. Donc... Ami TikTok, normalement je vous ai fait une scène et vous devriez la voir ici, voilà. Ça, attends, je vais vous virer ça. Voilà. Normalement, ami TikTok, vous devriez la voir aussi. Ami Twitch, vous l'avez. Comme c'est pas la même mise en page sur les deux plateformes, excusez-moi si c'est pas tip top. Vous êtes prêts? Let's go.
Nous sommes très proches de perdre cette guerre.
Qu'est-ce que je fous ici? Vous faites partie d'un programme qui est classé top secret.
Nous cherchons des informations en rapport avec le programme Sentinelle.
On se charge.
Ta femme ne peut pas savoir que tu es en vie.
M'en fous. Vous jouez avec la vie des gens, mais vous savez rien.
C'est tout? Oh non, je veux plus, moi. Oh putain, c'est trop court. C'est pas mal. C'est français. Ouais, petite... la musique, vous l'avez saluée, oui, on est sur du Painted Black. C'est tout ce qu'on a, là, comme 1 minute 4? Ah ouais, c'est tout ce qu'on a. Eh ben, c'est OK. Bon, j'ai pas Canal, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça ressemble pas mal aux amours de Fallout. Ah bah Fallout, faudra m'expliquer. J'ai rien compris au jeu, moi, hier. D'ailleurs, j'avais un simplet sur Fallout avec Trinity que j'adore. Mais, j'ai pas bien compris le jeu. Hein. Ah, attends, le vieux schnock hier soir. Le vieux schnock hier soir. Hier soir, donc, pour ceux qui n'étaient pas en live, j'ai dans Samplay, mon émission du dimanche soir sur le jeu vidéo où j'explore chaque dimanche soir un nouveau jeu vidéo avec mon invité. J'ai reçu quelqu'un que j'aime beaucoup, Trinity, qui a un parcours incroyable, qui stream depuis 11 ans, qui a fait de l'e-sport, qui fait de l'IRL, qui est bon, quelqu'un de passionnant. Et puis à un moment, il a bien fallu découvrir ce jeu. Fallout, c'est quoi? New Las Vegas, c'est ça? Je n'ai rien compris au jeu. Je n'ai rien compris. New Vegas. Je n'ai rien compris. Oui, j'ai compris que les scorpions pouvaient me bouffer le queue, oui. Mais j'ai pas compris. Et Joe Harry, mais comme une baleine. Littéralement, je pense qu'on a exploré le jeu pendant 1h30 à peu près. Pendant 1h30, il s'est foutu de ma gueule. Voilà. C'est quoi que t'as pas compris? Rien. Je pense que c'est un jeu qui exige du temps, il faut du temps, je pense, pour l'explorer. Je n'ai rien compris. Pourtant, j'avais joué à Fallout 76. J'avais rien compris non plus, d'ailleurs. Tu as exploré l'introduction. Ouais. Alors, je pense qu'il faut que je reconsacre un stream à ce jeu, quoi. Vraiment, je suis resté sur le côté, quoi. Tu vois, en fait, le jeu a, le jeu roulait et moi, il m'a laissé sur le côté. Il est parti devant, quoi. Il n'y a rien de compliqué en vrai? Putain, j'ai rien compris, moi. Toujours aller au nord? Mais non, je suis mort 10 fois. Regarde la série, tu comprendras l'univers. Ouais. Bah ouais, mais j'ai pas eu le temps encore de... Ok. Bon. En tout cas, j'ai bien aimé le stream parce que j'étais très heureux de recevoir Trinity, mais sur le jeu, je pense qu'il faut que je bosse encore un petit peu. J'ai été plus spectateur qu'acteur. Exactement, Olivier, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Allez, on finit avec un article sur l'univers du jeu vidéo, puisque Les Échos, qui est un quotidien qui parle d'économie au quotidien, qui décrypte toute l'actualité, mais toute l'actualité économique, sociale, culturelle, des entreprises, mais pas seulement par le biais de l'économie, en fait, s'intéresse beaucoup au monde du jeu vidéo, mais par l'angle de l'économie. Il y a beaucoup d'articles dans Les Échos sur le marché du jeu vidéo. Voilà. Jeu vidéo, un rachat record se prépare autour d'EA, Electronic Arts. Je ne sais pas si vous le saviez. Éditeur du jeu de football FC, l'ancien FIFA par exemple, et des Sims aussi, et je crois que Battlefield, c'est également eux. Eh bien, EA pourrait changer de propriétaire dans une opération de LBO à 50 milliards de dollars. 2h18, j'ai pas changé le TC, vous êtes des monstres. Heureusement que vous êtes là. Mais que ferais-je sans le chat? Que ferais-je? Hop. Et c'est actualisé sur TikTok aussi, puisqu'on a des machines. J'y vais. LBO, c'est le... Je sais plus, c'est un truc de bourse. Attends, je vais t'expliquer. Enfin, je pense que l'article va expliquer. Parce que moi, LBO, je sais plus ce que c'est non plus. Je suis comme toi. LBO, Leverage Buyout. Le chat est incroyable. Achat à bras de levier. Vous êtes incroyable. Vous êtes des monstres. C'est le chat, ça. Alors, Kepatha. L'éditeur, blablabla, on l'a lu. Les fans de jeux vidéo ne sont pas les seuls à attendre la sortie du jeu de tir Battlefield 6, que j'attends moi. J'attends BF6 avec impatience, pour l'ouverture au grand public, parce qu'il y a plein de streamers qui ont pu jouer à la bêta. À tel point que je vais charger BF5 dans les prochains jours, là j'aimerais bien streamer BF5 avant que BF6 arrive, histoire que je me régale, quoi. Donc les fans de jeux vidéo ne sont pas les seuls à attendre la sortie de BF6 pour savoir s'ils visent juste. Excellent. Jeu de mots. Prêt à s'engager dans le plus gros rachat financé par la dette. MMG me dit, en gros, une petite entreprise rachète plus gros que soi via des emprunts bancaires et l'emprunt est au compte de l'entreprise rachetée. Quoi ? T'achètes une boîte avec de la thune et du coup, c'est la boîte que tu rachètes qui met ça au niveau de sa dette ? Oh, c'est bon ça ! Je vais faire ça, moi. Bah, attends, je vais racheter l'Empire Bolloré, moi. Attends, je vais aller voir les banques. Je leur dis, les gars, vous me vendez tout, là. Non, j'ai pas les sous, mais c'est pas grave, vous mettez ça sur la dette de l'entreprise que je rachète. C'est bon, ça. Ah, encore faut-il trouver une banque qui accepte. Ah, c'est pas faux, j'avais pas pensé à ça. Ok. C'est bon, ça. Ok. Il y a Mr. Captain qui dit, on peut faire ça pour acheter des maisons? Bah oui, en fait, c'est un peu la même chose, en fait. Oui, tu récupères la dette, j'avais bien compris. Oui, j'avais bien compris que je ne laissais pas la dette à Bolloré, ouais. Bienvenue dans le capitalisme, me dit Cassade. Plus t'as de pognon, plus tu utilises celui des autres. J'adore. Donc, LBO, prêt à s'engager dans le plus gros rachat financé par la dette de l'histoire, les potentiels nouveaux propriétaires de l'éditeur californien Electronic Arts scruteront de près la commercialisation de son prochain blockbuster le 10 octobre. BF6, ça a l'air pas mal. Je sais pas, certains ont vu les streams de certains streamers, streameuses sur la bêta de BF6. Ça m'intéresse en vrai parce que moi j'ai pas pu en voir. Est-ce que c'est... Ça vous parle BF6? Vous pensez que ça va être sympa ou pas? Parce que moi je m'interroge de savoir si je vais passer du temps dessus. Révélé par le Wall Street Journal, ce projet impliquerait un spécialiste des acquisitions. Ça va être top. Oui, je pense. La bêta a été ouverte, j'ai adoré. La bêta a été magique. J'aurais pu jouer moi du coup? Oui. BF6, ça va être une dinguerie? Oui. Totalement dans l'attente? Ok. J'ai vu des streams, ça a l'air classique du comme d'hab. Que des campeurs comme d'hab, pas essayer, désolé, éclaté au sol. Ok, je vous laisse vous mettre d'accord. En tout cas, moi j'ai envie d'y jouer. Je vais essayer. Il y a eu 2 week-ends de bêta ouverte. Putain, je suis jamais au courant de rien, moi. Ok. Donc, révélé par la presse, ce projet impliquerait un spécialiste des acquisitions financées par la dette, le fonds Silver Lake, déjà à la manœuvre sur les opérations similaires chez Dell, cette fois accompagné par le fonds souverain saoudien, PIF, voilà. Le premier qui me dit que cette opération est un gadget, ça va chier, mais également par le fonds Affinity de Jared Kushner, tiens donc, le gendre du président américain Donald Trump, ça, ça. Eh ben, ensemble, ils seraient prêts à valoriser Electronic Arts près de 50 milliards de dollars. C'est certes moins que son rival Activision aura acheté pour 75 milliards de dollars par Microsoft en 2023, mais à ce prix, l'opération dépasserait le LBO d'une entreprise énergétique texane en 2007 qui avait été le précédent record. C'est quand même de la thune. Je valide le paglop. Donc, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais l'officialisation pourrait survenir là, en début de semaine. En bourse, l'action de l'éditeur a déjà augmenté de 15% depuis ces derniers jours. Connu pour ses jeux de simulation de foot, l'ancien FIFA, FC, de football américain, ça je connais pas, Madden, mais aussi de la franchise des Sims, Electronic Arts, c'est l'un des quatre géants du secteur avec Take-Two, hein, GTA, Ubisoft, Assassin's Creed, Ubisoft, les pauvres, Activision, Call of Duty, il compte quelques 700 millions de joueurs inscrits. Mais le secteur donc, du jeu vidéo vit une période de vache maigre, alors qu'il débordait d'ambition dans les années post-Covid et lançait des projets à foison. Le retournement du marché le place désormais en état de surproduction. Hein, désormais, le lancement de toute méga-production se joue à quitte ou double. Dans ce contexte, Electronic Arts aurait été jusqu'à annuler la sortie d'un jeu Star Wars, vous saviez ça ? Jetant à la corbeille des années de travail. Vous êtes au courant que EA aurait jeté à la poubelle un projet de jeu Star Wars ? En se disant ça va pas le faire finalement ? Ah, ils savent, ils sont forts. Sur son année fiscale dernière, donc les recettes avaient baissé de 1,3% à 7,4 milliards de dollars. Mais le secteur nourrit aussi beaucoup d'espoir au sujet de l'IA. Certains voient les nouvelles techniques de génération de contenu animé comme une façon pour les studios de sabrer dans les coûts. Ouais, peut-être pas une bonne nouvelle pour l'emploi, ça. Bon, je dis ça, je dis rien. Cette semaine aura vu le fonds Silver Lake faire feu de tout bois de ses ambitions dans le monde du divertissement. Voilà. Il sera en première ligne également sur le rachat des activités américaines de TikTok. Tiens donc. Le fonds saoudien, PIF, fait quant à lui déjà partie des principaux actionnaires d'EA. Ce n'est pas la première fois que le fonds souverain investit dans le jeu vidéo. Il a notamment acquis le jeu mobile phénomène Pokémon Go en mars dernier pour un montant de 3,5 millions de dollars. C'est intéressant. C'est pas faux. C'est intéressant ce que dit Why Always David. Bonjour tout le monde, plutôt logique ce rachat en vrai. Le PIF, c'est eux qui ont investi massivement dans le foot. Ils ont les plus gros clubs saoudiens. C'est grâce à eux que Ronaldo est là-bas. Dans leur démarche, ça se tient. La Saudi Pro League va être cheatée sur les prochains FIFA du coup. C'est drôle. Il y a Rashta, Patati et Batata qui vient d'arriver dans le chat côté TikTok. Ça fait 2h26 qu'on est en live. On a parlé de Le Cornu, de Trump, de Gaza, de Sarkozy, du rachat de TikTok, de Windows 10, de l'Ukraine. Et donc Rashda arrive et écrit « Bonjour monsieur journaliste, que pensez-vous de la Palestine, du Congo, du Soudan ?» Mais on a la fin du live. Voilà. T'as littéralement des réponses à ces questions dans tous mes lives, mais je veux pas te le refaire là. Ça va être compliqué, mais n'hésite pas à revenir tous les jours. C'est dur ce que tu viens de dire, Kevin. Kevin, il dit, si un emploi est menacé par l'IA, c'est que c'est pas un vrai métier clinique, mais réel. Waouh, c'est violent quand même. Salut Rajda. Mais reviens quand tu veux en vrai. Merci beaucoup. Merci Julien. Mais Rajda, bienvenue. C'est tous les matins, en gros 9h midi ou 9h30, 12h30, la revue de presse, sur Twitch, sur TikTok, replay, YouTube, en podcast également, audio désormais. On dirait que ça t'embête de lui répondre, tu peux faire un mini résumé. Ah bah oui. Oh bah sans problème, ouais. Ah oui. Ah bah oui. Oui, en quoi, tu le vends quoi, 40 secondes ? Tu veux ma position sur la Palestine, le Congo et le Soudan en 40 secondes ? Bah, aucun problème. Ah bah je te fais ça sans problème. Ça va être sûrement pertinent et intelligent. vu la complexité du sujet. Ah bon, bien sûr, ok. Tu veux pas s'emballer un Mars aussi? Tu veux pas que je te fasse le pare-brise? T'es fou du bus. Bah, ça, on dirait que c'était embêté de répondre. Tu veux pas lui répondre en 45 secondes?
Bah, bien sûr.
Je suis en fin de live.
Bah oui.
Bien sûr. Le fou du bus. Le pas que je te répare la vaisselle aussi. Oh, putain, c'est pas possible. Non, je peux pas, les gars, je suis en fin de live. Là. Et merci, c'est un plaisir. Bon, c'était bien. Bon, et franchement, faire tenir toutes ces infos en 2h28, il y avait un petit côté speedrun. J'aime bien prendre le temps un peu plus, là. Mais je le ferai demain.
Qu'est-ce que j'ai demain?
Là, comme ça, je vais pouvoir me préparer mon live. J'ai une réunion à 13h.
Oh, j'ai même pas pris mon agenda. J'ai même pas pris mon agenda.
Je prends mon agenda électronique papier. Salut, je voudrais savoir si c'est vrai que le Figaro a été racheté par un droitard. Wow, on parle surtout du Parisien en ce moment. Parisien qui pourrait être racheté par Bolloré, mais on va en reparler de ça. Attendez, donc, quel jour on est là? Ok, demain matin, revue de presse. Attendez, on vire tout ça, je vais vous faire l'actu. Je vais vous dire tout ce qu'il y a cette semaine, parce qu'il y a plein de lives cette semaine, mais vraiment. Pop, plein de petits trucs sympas. Attendez. Sommaire, ok. Les amis, le sommaire. Donc, la revue de presse, c'est ce matin, c'est mardi matin, c'est mercredi matin, c'est jeudi matin, c'est vendredi matin. Avant, c'est quand je pouvais, le plus souvent possible. Mais de temps en temps, il y avait un petit rendez-vous, une réunion, un tournage, un truc sur YouTube ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est tous les matins. Voilà. C'est vraiment, c'est exceptionnel que je puisse pas la faire. Et si je peux pas la faire, eh ben, je vous la fais le soir. Donc là, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la revue de presse tous les matins. Ok ? Vous avez cet après-midi, à partir de 17h, 18h par là, le react de questions pour un champion des deux émissions de samedi et dimanche. Voilà, puisque je fais ça depuis quelques semaines. J'essaie différents horaires pour voir un petit peu quand ça vous plaît. J'ai essayé le soir. Là, je vous fais ça à partir de 17-18h aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire du gaming en soirée. Est-ce qu'on fait un triple stream aujourd'hui sur Twitch? Je ne suis pas sûr. Ami TikTok, là, quand c'est hors revue de presse, c'est sur Twitch. Donc demain, à 18h sur Twitch, en plus de la revue de presse, j'ai un live de découverte de World of Tanks. Hein, puisque il y a une semaine ou deux, on a découvert World of Warships. Et vous m'avez dit, bah, il faudrait aussi que tu découvres World of Tanks. Let's go, demain 18h. Est-ce que le tank va partir sans toi? Il y a un monde. Mercredi matin, la revue de presse. Le soir, il y aura peut-être un petit peu de gaming solo, peut-être un petit peu de Valo, ou peut-être de BF6. BF5 plutôt. Jeudi matin, revue de presse. Le jeudi soir, sûrement du gaming. Vendredi matin, revue de presse. Le soir, c'est du gaming. Je suis très embêté parce qu'il y a 3 jours de phase finale de VCT Valorant de Paris. Là. Normalement, je devrais être sur place pour faire des trucs, mais trop de boulot. J'ai rien réussi à préparer. Donc, c'est total impro. Ça se trouve, je ne vais même pas y aller. Et je m'en excuse. C'est bon. Lundi 6, revue de presse. Mardi 7, 20h, mon plus gros stream de la rentrée. C'est un secret, voilà. Enfin, ce sera en public, dans un cinéma parisien, sur la scène, des invités pour jouer à des jeux, culture générale, mais pas seulement, on va rigoler. Bon, voilà, j'ai encore un peu de boulot là-dessus. MVP, le retour mercredi 8, voilà, puis après, voilà. Puis il y a des trucs qui arrivent, je vais aller en Belgique à un moment. On fera un truc sur BF6 aussi pour sa sortie. Voilà, je vous dis pas tout.
Ouais, le bingo.
Ouais, normalement je vais faire un live en Belgique. Normalement, je vais faire un live en Belgique. Et il y a le GP ce week-end. Quel GP? Quel GP? C'est quand le GP? Tu parles de GP Explorer? C'est quand le GP Explorer? J'y vais pas, moi. C'est quand le GP Explorer? C'est quoi les dates? C'est le week-end du... Vendredi à dimanche, là? Mais en même temps que Valo? En même temps que les VCT? Attends, ils font le GP Explorer en même temps que VCT Paris-Valo? Oh bah de toute façon, si j'avais eu à choisir, ça aurait été Valo à 2000%, quoi. Oh, zéro regret. Non, faut pas déconner. Non, en vrai, moi, Riot m'avait proposé de... Attends, il faut que je vous montre un truc.
Quelle heure il est ?
Faut que je vous montre... Ah, 44 ? Ah, faut... Non, j'ai eu un petit... J'avais un petit Altego à vous montrer. J'ai un nouvel Altego dans ma collègue. Pourquoi c'est tombé, ça ? J'avais un nouvel Altego. Dans ma collègue, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous montrerai plus tard. Allez, je vous abandonne. Bon, ami TikTok, je vous dis au revoir parce qu'on peut pas faire de raid chez vous. Je vous retrouve demain matin pour la revue de presse. Et puis je vous retrouve, ami TikTok, au plus tard demain matin pour la suivante. On va raid qui ? Bon, on va voir tout de suite. Alors, je cut sur TikTok. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et merci pour d'être là tous les matins et d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Hop, et ami Twitch, nous, on va faire un raid. Qui est en live ? Qui est en live ? Bon, évidemment, Bailan et Nico, ça, on s'en doute. Ah, ça j'aime bien, ça. C'est qui joue ? Oh, je vois. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est... On va aller sur du sport. Vous avez... RMC, c'est un des rares médias. C'est un des rares médias à avoir réussi son arrivée sur Twitch. RMC Sport. Et ils proposent sur leur chaîne Twitch plein de compétitions, notamment du tennis de table, du ping. Voilà. Et je vois que RMC est en live actuellement, avec notamment Alexis Lebrun, l'un des frères Lebrun, qui est en train de jouer. Et je crois que c'est en direct. Vous savez quoi ? Priorité au direct, comme on dit sur certaines chaînes d'infos. Et on va aller faire ça. RMC. En plus, ils viennent souvent nous voir, les amis d'RMC Sport. Donc, on leur rend la politesse. C'est parti, on va voir les amis de RMC Sport, c'est du ping, c'est du sport, il y a du Lebrun, vamos. Voilà. Et puis moi je vous retrouve à partir de 17 ou 18 heures pour du react de questions pour un champion. Et demain matin également pour la revue de presse. Prenez soin de vous, merci pour ce matin, c'était cool. N'oubliez pas, la revue de presse désormais c'est aussi en podcast, pour l'exclamation, podcast dans le chat, tous les jours. À tout à l'heure, merci pour ce matin, ciao ciao.
Que sa main était descendue sous la table. Donc on n'a pas le droit à...
Il y en a tellement un qui...